C'est l'équipe du soir, bonsoir. Ce soir, c'est l'esprit bleu qui flotte sur l'équipe du soir. Beaucoup d'actualités autour de l'équipe de France olympique, équipe de France A. Une actualité, évidemment, avec l'éventuel retour de Benzema en équipe de France olympique. Ils sont tous en forme olympique, en tout cas, c'est ce que nous allons tenter de constater dans cette présentation. Le président tue le présidente. Ça vous dérange? C'est Mélisande Gomez, la tigresse de l'équipe du soir. Bonsoir, président Gomez.
Bonsoir, Mémé, bonsoir à tous.
Je vous présente votre ville-peuple.
Avec plaisir.
Avec plaisir, avec joie, d'accord, sans aucune ironie mordante qui vous caractérise. Le beau gosse est dans la place. Timothée Mémon, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Ça va?
Bien, vous-même.
Ah, vous avez vos lunettes?
J'ai mes lunettes.
Quand ça va être sérieux, c'est lunettes. Quand c'est un peu plus léger, c'est sans lunettes.
On est marre des lumières, je mets les lunettes.
Ah oui? D'accord. Attention, mes amis, Dominique Sévrac est dans la place entre parisiens que je vais gifler. Ça va?
Ça va, j'ai le feu.
Bah oui, c'est vrai.
J'ai le feu ce soir.
Ah oui, c'est vrai.
Je vous le dis, je vous préviens quoi.
D'accord, ok, très bien, mais c'est parfait. De toute façon, vous êtes souvent en forme pour faire le show de l'équipe du soir.
Oui. Hein,
face à vous, je vous présente quelqu'un qui n'est pas souvent d'accord avec vous. Et ça, on aime bien, c'est Karine Galli. Bonsoir, Karinette.
Bonsoir, mais bonsoir à tous. Ça peut être angoissant quand même, son j'ai le feu selon le moment.
Ah oui, bon.
Tu avais une voix un petit peu surprenante.
Oui, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a un trouble qui se passe. Bon, dissipons tout ça avec un motard qui arrive, qui déboule, c'est le Bikers de l'équipe du soir. Voilà. Regardez.
En forme olympique, d'ailleurs, je milite pour que la moto entre au jeu, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de.
Tout et n'importe quoi entre. Donc
la moto et la pétanque, mais pour l'instant,
d'accord. Ah, la pétanque, ça pourrait être sympa. Virginie Saint-Cylie, bonsoir. Une information
Non, pas de cadeau non plus. Non, pas du tout. Juste, j'embrasse toute la Guadeloupe, toutes les Antilles qui nous regardent.
Non, si,
je vous aime. Voilà, j'en prends ce soir.
Voilà, très bien. Okay.
Mais je les embrasse, faut pas les oublier.
Bien sûr, les autres, évidemment, peuvent se brosser. Merci beaucoup, Virginie, les autres apprécieront. Et football au JO à présent, puisque jour de tirage au sort aujourd'hui, Thierry Henry et Hervé Renard étaient évidemment concernés, en tout cas leurs équipes. On va commencer par les hommes. Les Bleus de Thierry Henry logent dans le groupe A. La France, donc, affrontera les États-Unis. Ce qui est drôle, c'est que lundi soir, sur la chaîne de l'équipe, il y a un match de préparation, un match amical contre les États-Unis. Donc voilà, on y reviendra. Et un membre du barrage, donc, c'est soit la Guinée, soit c'est la zone Asie-Afrique. D'accord? On ne connaît pas encore l'identité, donc, de cet adversaire. Et puis la Nouvelle-Zélande, on sait que c'est fort en rugby, en foot, bon voilà. Bon ou mauvais tirage? Plutôt un bon tirage, ça, les copains. C'est tranquille.
Tranquille, ça va.
Ouais, tranquille.
Pas de piège, pas de grosse nation, ça va.
Mmh.
Pour moi, ça va.
Oh, bah, oui.
Oui, pas de problème. Est-ce qu'on peut revoir un petit peu les équipes qui sont là et sortir, on va dire, un peu du groupe A, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me remettre ça pour avoir peut-être une vision globale? Je ne sais pas si on a perdu les droits, hein, les copains, au niveau du tableau.
C'est compliqué.
Je ne l'ai pas encore de tête, donc je ne peux pas donner les trucs.
Mais ce n'est pas par cœur.
Ah ben non, merci beaucoup, mes biquets. Argentine, Maroc, Ukraine, ça dans le groupe B, à mon avis, c'est plutôt coton. L'Espagne également, et puis il y a le Paraguay, le Mali, Israël, on n'a pas encore tous les droits, ne vous inquiétez pas, voilà. Sur l'ensemble du truc, est-ce que vous trouvez qu'il y a des nations qui sont beaucoup plus fortes que la France, les amis?
Mais on ne peut pas vraiment savoir.
On ne peut pas savoir, pourquoi?
Je me suis renseigné auprès du spécialiste, vous voyez,
oui.
Qui était présent au tirage au sort, et on ne sait pas qui sera libéré, qui sera présent au JO. Donc c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire qu'une nation peut être forte aujourd'hui et finalement elle n'aura pas ses meilleurs éléments lors de la compétition. Donc c'est quand même très compliqué de se prononcer à partir du moment où on n'a pas les groupes définitifs.
Le spécialiste, c'est Giovanni?
Je crois.
Non, Giovanni Castaldi, est-ce qu'il est... Il est là.
Oh, il est là.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous.
Donc en fait, on parle d'un truc et on ne connaît pas la force des équipes. C'est un peu le charme et déroutant des
ça, ça dépend pour les zones qu'on évoque. C'est-à-dire que Karine l'a dit, sur les grosses nations, évidemment, on est forcément dépendant des joueurs qui vont être libérés, des joueurs qui vont vouloir faire les Jeux Olympiques. On sait que, de manière générale, les nations sud-américaines sont toujours très fortes. On le voit sur le palmarès récent. Il y a une vraie culture. Et c'est aussi le cas sur le continent asiatique qui se développe énormément. D'ailleurs, Hervé Renard et Thierry Henry en zone mixte quand il parlait des adversaires qui redoutaient, ont appuyé sur le football asiatique. Ça a été aussi le cas des représentants de la FIFA qui étaient ce soir à Saint-Denis. On sent vraiment que le continent asiatique progresse énormément et c'est des nations dont il faut se méfier. On le voit dans les grandes compétitions, mais encore plus aux JO.
On va donner la parole à votre nouvelle meilleure amie.
Madame Hidalgo.
Non, Thierry Henry.
5 heures dans les bouchons aujourd'hui, ça progresse. C'est exceptionnel.
Non, pas Hidalgo, c'est une émission de sport. Thierry Henry qui réagit au tirage et qui nous parle finalement d'un match contre les États-Unis. Ça l'arrange pas trop. Explication pourquoi lundi il y a le fameux match amical contre les États-Unis.
En clair sur la chez nous, sur la chaîne L'Équipe.
Ah, oui, depuis quand la chaîne est cryptée? Allez-y, Thierry Henry, on y va.
Non, il n'y a rien de facile dans le football. Je me suis retrouvé dans des situations aussi dans ma carrière où tu peux penser que donc on ne pense pas, on va travailler. Bien sûr, on ne voulait en général, tu n'essaies pas d'organiser un match amical contre une équipe que tu vas rencontrer plus tard. Je pense que les équipes seront différentes des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est que je disais à vos collègues un peu avant. T'es un peu plus avancé, surtout par rapport aux équipes que tu dois affronter, à part bien sûr une. On attend encore bien sûr une équipe dans notre pool, mais voilà, on va pouvoir commencer à travailler sur les adversaires.
Vous l'avez senti stressé ou l'avez senti pas stressé là? L'échéance, on va dire, c'est marqué un peu symbolique, tirage au sort.
Non, pour le coup, peut-être qu'il a des défauts en tant que coach, mais c'est pas forcément le stress. Non, le seul truc que j'ai remarqué ce soir, pour le côtoyer maintenant un petit peu plus près à Thierry Henry, parfois il a des réponses un peu d'acteur, il le fait très bien, c'est un brillant orateur, il est très, très bon en conférence de presse. Mmh. Mais là, parce qu'il y avait d'anciens athlètes olympiques, il y avait notamment Marie-Josée Pérec, oui. Il était hyper ému. On sent vraiment que le côté olympique, autant il y a des sportifs de haut niveau qui s'en fichent royalement, lui, quand il parle des JO, il y a quelque chose, et notamment Marie-Jo Pérec.
Il est fan absolu d'ailleurs, il en parle dans l'interview aujourd'hui dans Le Parisien.
Face au lecteur Thierry Henry.
Je n'ai pas lu Dominique Sévrac.
Oui, parce que tu ne l'as pas fait. Donc
il lit que ses éditos.
On vous a concocté un petit débat dans quelques minutes. Honneur aux femmes à présent. Donc les Bleus d'Hervé Renard logent également dans le groupe A. Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande, Giovanni. Vous êtes renseigné avec la spécialiste, j'ai l'impression que c'est Karine Galli. Ah ben oui, vous suivez pour W9
notamment. Il m'a pas posé de questions.
Les filles d'Hervé Renard. Bon tirage.
Oui.
Oui.
Ah bah oui, oui.
Bah, on a du titre quand même.
Comment?
Canada, non?
Elles ne sont pas tenantes du titre.
Ah,
des JO, pardon, j'étais sur la Coupe du Monde, pardon.
Oui, elles n'ont pas été bonnes à la Coupe du Monde.
JO, là.
Mais
Tu veux de l'aide, Karine?
Mais effectivement, les Français s'en sortent plutôt très bien parce que le Canada n'est plus une nation aussi forte actuellement. Ah. La Colombie, les Français les ont plusieurs fois affrontées, notamment en match amical. Et évidemment, il y a un monde entre la France et la Colombie. Quand vous voyez les autres groupes, États-Unis et Allemagne, c'était évidemment les deux équipes à éviter. Et quand vous voyez également Espagne, Japon, Brésil, c'était des groupes qui sont beaucoup plus relevés que l'équipe de France. Ça ne veut pas dire qu'on va briller, mais par rapport au tirage au sort, on s'en sort bien.
Il faut terminer premier pour éviter d'affronter en quart de finale une grosse nation. Il y a quoi là? On croise avec quoi là, lorsqu'on fait quelques projections?
Je vous l'ai dit, les équipes qu'il faut absolument éviter, États-Unis, Allemagne, parce que même si les Allemandes, elles vont beaucoup moins bien, elles sont quand même toujours aussi redoutables. Espagne, Brésil, c'est les quatre vraiment nations à éviter. De toute façon, nous, on n'est pas favorites. Il y a un moment, il faut arrêter. On n'a toujours rien gagné. On a vécu une énorme désillusion lors de la finale de la Ligue des Nations.
Le mois dernier, 2-0 contre l'Espagne.
Donc, mais c'est une médaille, ça serait déjà très bien. Comment?
C'est pas difficile de sortir de la poule.
Non, je t'ai dit qu'on était vraiment heureux au tirage.
Oui, oui.
Mais le but, c'est pas de sortir de la poule.
Non, mais c'est très facile, là, parce que
l'objectif, c'est la médaille. Ils l'ont
donné.
Voilà. Le problème, c'est qu'il faut une médaille.
La médaille. Tous en même temps, mes petits. Alors, juste, Dominique, vous annoncez un truc qu'on n'a rien entendu.
Je dis qu'il y a deux des meilleurs troisièmes qui sont qualifiés pour l'écart.
Ça, c'est pas la question, Dominique.
C'est quand même très compliqué de pas sortir de la poule.
Mais on est tous d'accord que la France va sortir a priori de la poule, hormis un accident industriel, mais ça suffit pas.
Non,
et une médaille, c'est l'objectif.
Mais c'est le podium.
Et c'est compliqué aussi parce que la réalité, c'est qu'on l'a jamais fait.
Attendez, c'est compliqué. Ça sera compliqué après la sortie des poules. Hervé Renard, lui, il a une autre logique. Hervé Renard, bon ou mauvais tirage, on y va. Hervé Renard, sélectionneur des Bleus.
Le premier tour avec l'objectif prioritaire, c'est bien sûr de finir premier de la poule. Et quand on voit la qualité des équipes qui composent les autres groupes, ça s'annonce des Jeux Olympiques très difficiles, mais c'est le prix pour être couronné.
Voilà, c'est plutôt après. Donc sortie de poule, il l'envisage. J'avais mal compris Hervé Renard, qui était plutôt clair dans ses propos. Autre chose à ajouter sur ce tournoi féminin? Autre chose à nous apprendre? Des petites alertes? Karine, oui, non, machin, parce qu'on a d'autres débats.
Bah non, on va en parler un petit peu plus tard, mais déjà, l'officialisation du départ d'Hervé Renard, même si c'était...
On en parle en quelques minutes.
Une évidence, c'est quand même une très mauvaise nouvelle avant de...
On en parle en quelques minutes.
Mais pas duel,
non, je ne fais pas le duel.
La question de fond, la question de fond, la place du foot aux Jeux Olympiques, la parole est à la défense. C'est Thierry Henry qui défend le foot au JO. C'était aujourd'hui dans un face au lecteur de légende.
Excellent, magnifique.
Sur le Parisien aujourd'hui en France. Alors les gens pensent que le foot n'est pas un sport olympique. C'est justement le débat de ce soir. Mais ce n'est pas une question de foot. Là, on parle des JO avec tout ce que ça représente. Peu importe le sport. Savoir qui a gagné une médaille, c'est la question du jour. Et ça ressemble à... Et ça rassemble tous les sports. Au jeu, tu es dans une équipe qui fait partie d'une plus grande équipe. Les Bleus de Thierry Henry au JO de Paris, est-ce que ça vous excite, mes amis?
Oui.
Oui?
Oui, plutôt.
Non.
Non?
Ah.
Eh bien, on y va. On y va ou pas?
Bonsoir, Karine.
Bonsoir.
Et Dominique?
Oui, bonsoir.
Vous m'avez dit oui,
Dominique? Oui, je vous dis oui.
OK. Oui. Karine, vous m'avez dit non?
Non.
Hein, on est bien d'accord? Je gagne du temps.
Ah, il y a un problème en régie.
On ne s'est pas entendu avec
on a pris la régie de cours.
Ma régie. Philippe et Timothée, c'était quoi vos réponses?
Moi, ça me plaît.
Vous, ça me plaît? OK, d'accord. Philippe, vous dites pas non parce que je ne peux pas programmer Super Duel.
Non, non, ça me titille un peu.
Ouais. Ça vous gratouille, d'accord.
Il vous faut un nom pour un Super Duel, mais
non,
c'est ça.
Ah, non, pas
si
du tout.
Voulez, non, si vous avez besoin, peut-être, non, ça peut peut-être aider la régie derrière.
Du temps, je suis désolé, c'était pas prévu, on y va comme
pas
ça.
En fait.
Dominique, c'est vrai que ça vous.
D'accord, c'est comme ça que tu raisonnes, très bien. On apprend des trucs, ça.
J'apprends, toi, je suis désolé, toutes mes excuses. Jacouille, est-ce que c'est prêt? On peut y aller? Merci beaucoup et pardonnez-moi. Oui, Dominique Sévrac, non Karine Galli. Oui, pourquoi ça vous excite, Dominique, les JO à Paris?
Je trouve que le produit marketing est très alléchant. On a une légende du foot français qui est devenu sélectionneur, Thierry Henry. C'est quand même pas n'importe qui. Donc on a envie de suivre ça. Je vous aurais pas dit ça si c'était Sylvain Ripoll, par exemple. Ça a pu avoir lieu. Je vous dis ça parce qu'il y a une génération avec notamment Barcola, avec Rest, avec Chevalier, avec d'autres. Avec peut-être Matistel, peut-être Zaïre Emery. Il y a une génération fantastique de joueurs. Donc moi, ça m'excite énormément de voir ce tournoi au JO.
Karine, vous répondez non. Quels sont vos arguments?
Non, déjà, j'ai l'impression que Dominique a eu du mal à sortir des noms. Au bout de trois, il galérait. Puis après, il allait chercher Zaïre Emery qui est déjà chez Léa. Non, parce qu'effectivement, les sports majeurs lors des Jeux Olympiques, ce n'est pas ça. Et je trouve que Thierry Henry a donné une très belle définition pour le coup des JO. Lui, il est arrivé devant Marie-Josée Pérec. Oui, c'est l'athlétisme. C'est l'escrime, c'est le judo, c'est le vélo sur piste, mais ce ne sont pas les JO. Alors là, on en fait tout un foin parce que c'est en France, mais je suis désolée. Est-ce que tu peux me citer tous ceux qu'on gagnait en 84? La réponse est non. Et c'est pas parce que tu les as vus aujourd'hui dans les journaux que tu peux répondre. Donc non, ça ne m'excite pas. Les JO, ce n'est pas le foot.
Okay. C'est le vieux monde, Karine, ce que tu dis.
Attendez, s'il vous plaît, Dominique, silence. Le sondage du soir, enfin, ce duel est sur le site L'Équipe. La présidente va trancher. C'est un oui. Si c'est oui, c'est Dominique. Si c'est non, c'est...
Merci, mémé, je n'avais pas compris.
Voilà. Excusez-moi, je suis un peu à la chouffe.
Donc je vais trancher. C'est ça, hein. moi, je vais donner le point à Karine.
Ah,
voilà.
C'est vrai?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que c'est une femme,
tout simplement.
Non. Allez!
Tout ce qu'adore Karine.
Et tout ce qu'adore Mélie aussi, d'ailleurs.
Parce que c'est pas que c'est pas excitant. Dominique a raison. Voilà, c'est à Paris. C'est Thierry Henry. C'est quand même probablement des joueurs, quelques joueurs talentueux. Et donc, il y a toujours cette excitation-là parce que c'est chez nous et qu'on a envie d'avoir le maximum de médailles et qu'on n'a pas énormément de chances de médailles ailleurs et qu'on se dit que peut-être celle-là, c'est l'occasion. Mais pour moi, le foot au JO, effectivement, c'est pas le cœur du projet.
C'est un passager clandestin.
C'est l'athlétisme, c'est la natation. Non, c'est pas un passager clandestin non plus, parce que c'est très juste ce que dit Thierry Henry. Et lui, qui est un passionné, un malade de sport, et qui il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui a toujours tout suivi et qui aime ça et qui respecte ça. Donc il va pas dire bon, alors nous c'est des JO, c'est pas un euro, donc on s'en fout un peu. Je comprends.
En plus, il a le job. Donc,
mais pour dans l'imagine et dans l'histoire du foot, les coupes du monde et les euros pour nous, c'est quand même autre chose que des Jeux Olympiques. Évidemment. Qu'on se souvient qu'on a gagné en 84, qu'on sait à peu près quand même qui y avait dans cette équipe.
Tu peux toutes les citer?
Non, pas toutes.
Il y a plus de l'Euro mêlé en 84.
Oui, non, mais on sait qu'on a été champion olympique en 84
en France.
Bah bien sûr. Tous. Mais moi, c'est pas ma génération. Mais 98, tu les connais tous. Et 2018, tu les connais tous.
Parce que je vais oublier Daniel Zverev que. Non, mais ça veut dire que ça compte pas.
Si t'avais pas vu la photo d'aujourd'hui.
Mais j'ai rien vu du tout.
Mais décidément, tu n'as rien vu aujourd'hui. Tu n'as pas vu l'interview de Thierry Henry et t'as pas vu. Donc, ils ont tous été regroupés. T'es au courant? Ils étaient tous invités d'ailleurs.
Ils étaient là ce soir.
Et il y avait la photo. Ils étaient tous là, sauf un.
José Touré?
Non.
Non? Vous avez vu José? J'ai pas vu, moi, à la télé.
José. C'est José Touré qui était absent?
Ah, bah, je sais pas, non, mais j'ai bien marqué.
Non, t'as bien marqué.
Il y en avait un qui était absent parce qu'il était retenu.
D'accord. Mais vous avez déjà oublié son nom.
Je comprends pas cet argument. C'est parce qu'on connaît pas leur nom, on a oublié certains noms, que ça veut dire qu'il faut dévaloriser ce qu'ils ont fait.
Je dévalorise pas. Je dis que l'impact,
c'est
mineur.
L'argument massue, c'est de dire on se souvient pas d'eux en cas de.
Dominique et Karine Poupou, laissons vivre un petit peu le plateau. Timothée Mémon patiente. Philippe Sansfourche patiente aussi. Je reviens sur l'interview de Thierry Henry parce qu'à la fois, il dit que le foot a toute sa place au jeu. Quand Marine, une lectrice du Paris Saint-Germain en France, demande à Thierry Henry quels sont ses souvenirs aux JO, spontanément, Thierry nous répond, les JO, ce sont les Barjots, donc Luande, Marie-Josée Pérec, pour moi, c'est la plus grande, la Dream Team, Carl Lewis, Edwin Moses, coureur, du 400 mètres, l'Américain, magnifique.
C'est ce évidemment.
Donc, les JO et le foot, c'est secondaire.
Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il faudrait être binaire dans ce dossier. C'est-à-dire, soit il faudrait dire c'est formidable, les Jeux cet été, c'est presque aussi important, voire plus important que l'Euro. Des fois, quand on voit la place que ça prend dans les gazettes, il y a un moment, on se dit, attends, c'est quoi la priorité de l'été, c'est d'être champion d'Europe ou c'est de faire une médaille avec... Donc, les Jeux, c'est important. Et en même temps, le discours, je l'entends, parce que c'est factuel, ce qu'expliquent Karine et Mélisande. C'est factuel, c'est-à-dire que ce n'est pas la pierre angulaire du projet. Mais moi, j'aime bien ce que tente d'expliquer Thierry Henry. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans un projet plus large, plus collectif du sport français. Et souligner le fait que, bah, oui, c'est le judo, oui, c'est le machin, mais ce n'est pas le foot, quelque part, je ne dis pas dans vos bouches, mais... ça peut être une forme de condescendance. C'est-à-dire de dire, bah nous, le foot, on a plein de trucs importants, de toute façon, c'est toute l'année. Donc les Jeux, c'est 15 jours tous les 4 ans, on va laisser ça aux sports mineurs, on les laisse entre eux.
Non, pas du tout.
Et puis on revient après.
L'athlétisme,
je
ne
dis pas ça pour vous. Oui. Je dis que cette petite musique, je l'entends un petit peu aussi. Et moi, j'aime le discours de Thierry Henry de dire, on s'inscrit dans un cadre collectif, c'est-à-dire que pendant 15 jours, il n'y a pas un footeux, il n'y a pas un mec qui fait du ping-pong, il n'y a pas un mec qui fait du tir à l'arc, il y a des sportifs.
Moi qui ai défendu Louis, tu sais aussi que c'est un argument de communication qu'il a sorti pour parce qu'il est bon. Et cet argument, il est bon. C'est l'équipe de France de foot s'inclut dans un grand tout, qui est l'équipe de France tout court. C'est un argument qui parle. Il dit ça parce qu'il sait qu'il y a un désamour du foot au JO.
Le droit de le Timothée Mémon, prenez la main, Timothée.
Ouais, non, moi, je suis un peu surpris de ce que j'entends. On ajoute à ces JO du breakdance, du pentathlon. Et pourquoi on n'y mettrait pas le sport le plus populaire du monde? Pourquoi il n'aurait pas sa place tout d'un coup? Pourquoi il aurait moins sa place que les autres? Moi, je suis ravi qu'il y ait du foot. Par ailleurs... je trouve que, avec le coup de com' Thierry Henry à la tête de cette équipe, moi, ça m'a un petit peu happé. Il y a aussi cette règle de faire venir 3 joueurs de plus de 23 ans. C'est bête, mais dans l'approche de l'événement, pour chaque sélection, on se dit qui va y aller, quels vont être les joueurs.
Qui va avoir le droit d'y aller, surtout.
Qui va avoir le droit, et ça crée un petit suspense, ça ne me déplaît pas. Et puis, c'est quand même plaisant de découvrir des joueurs de moins de 23 ans.
Oui, mais
il
ne faut pas non plus tomber dans une hypocrisie. Quand tu es gamin et que tu fais du 100 mètres, ton rêve, c'est d'être champion olympique. Quand t'es gamin et que tu fais du foot,
mais le champion du monde.
Et le rêve, c'est d'être champion du monde.
Mais pourquoi tu opposes?
Mais je n'oppose pas.
Ça peut être et l'athlétisme et le foot.
Et donc, il y a aussi une forme de condescendance. Alors on pourrait dire de ramener toujours tout au foot. Le foot, c'est pas son rôle central, les JO.
Bah non, le vrai truc,
il a sa place. Si t'as des places pour la finale,
laissons la lumière aux autres aussi des fois.
Karine, n'intervenez pas quand la présidente intervient parce que sinon.
Karine a le droit de parler quand je parle.
Bah oui, mais on n'entend rien. Moi, je me mets juste à la place du téléspectateur.
J'ai pas dit que le foot ne devait pas avoir sa place au JO.
Mais pour 100 mètres.
Si tu as des places pour la finale du 100 mètres ou la finale des JO, tu vas où?
La finale de JO 2.
100 mètres JO, 100 mètres finale.
Voilà. Tu vas où?
Au 2.
Non, c'est le même jour, la même heure. Oui. Ça tombe mal. Alors.
Au 100 mètres.
Ah ben, voilà.
Juste par rapport à ça, parce qu'on a croisé Tony Stinguet, pour le coup, qui s'occupe un petit peu à ses heures perdues des Jeux Olympiques. Le plus gros succès populaire en termes de vente de billets, c'est le foot.
Ah, c'est le foot?
Au JO. Ils ont déjà vendu 1 million de billets. Alors après, fatalement, les
prix... Normal, c'est deux fois moins cher, ça tira là.
Je suis d'accord.
Et il y a deux fois plus de place.
Je suis d'accord. Mais moi, ce que je veux... Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, le foot au JO.
Ah bon?
Simplement,
il faut être tout à fait honnête et faire le débat au bon endroit. Cette année, l'importance, c'est pas les Jeux, c'est la ville. C'est la ville, c'est pour ça que ça nous excite, c'est parce que c'est à Paris, c'est pour ça que les clubs de Ligue 1 vont davantage jouer le jeu. On s'en foutait de savoir qui y avait à la sélection de Sylvain Ripoll, soyez sincères, soyez tous honnêtes sur ce plateau. Donc cette année, c'est parce que c'est à Paris. On peut avoir un discours qui est différent, mais 90% des amoureux du foot, ils regardent pas le foot au JO.
Donc dans 4 ans à Los Angeles, on n'aura pas ce même genre de
débat. Mais je pense pas, et on verra d'ailleurs la réponse des clubs.
Je rappellerai que sur 60 millions de Français, il y a quand même 50 millions de personnes qui n'habitent pas à Paris et qui du coup se sentent
pas bien et que
ça n'intéresse
Timothée.
Pas. C'est en France, d'accord.
Non, mais c'est la France, tu dis
qu'est-ce
Paris.
Qu'est-ce qui permet aux régions d'avoir
le foot, c'est à Marseille.
Qu'est-ce qui permet d'avoir un peu de JO à Saint-Etienne? Il y aura un match de l'équipe bien de France féminine. Donc à Saint-Etienne, les JO passeront par le football. Donc c'est
pour ça que je te dis que ça prend une dimension qui est énorme parce que cette année, les JO sont en France et c'est pour ça qu'on parle autant du tournoi de foot. C'est parce que c'est en France. Sinon, on en parlerait même pas là.
Deux petites choses. Sur un rebond, une analyse de Philippe Sanfourche qui avait dit finalement Thierry Henry a bien parlé, on va dire, de la place de l'équipe de France olympique de foot dans cette grande équipe de France. Donc, parisien aujourd'hui en France, merci beaucoup. Et moi, je me souviens d'une confidence d'un joueur de tennis, Arnaud Di Pasquale, qui a été médaillé olympique au JO de Sydney. Il m'avait fait cette confidence. Il avait été boudé par les autres athlètes. Les autres athlètes, quand il a vu débarquer à la fois Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément, genre, mais qu'est-ce que vous faites là? Votre circuit est médiatisé, vous gagnez énormément d'argent, vous nous volez un peu la lumière. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'anecdote de la part des rapports entre les, je vais appeler les petits sports et les sports extrêmement exposés avec un calendrier? Voilà.
Bah, je vous donne un exemple très précis. Je vais faire un peu de pub aux copains. Chaque année, il y a un événement qui s'appelle les Micros d'Or. Ouais. Alors, je crois que vous y avez participé.
Bien sûr, oui, avec succès. Oui.
Voilà. Et l'idée, c'est de présenter des sujets dans toutes les catégories, la radio, la télé, la presse écrite, liés au sport, qui ont été faits pendant l'année. Et on inverse un peu les rôles. C'est-à-dire que pour une fois, ce sont les sportifs qui jugent les journalistes et donc le jury est composé uniquement de sportifs. Et il se trouve que ces sportifs sont des sportifs olympiques. Eh bien, figurez-vous que, comme par hasard, c'est bizarre, hein, mais les sujets qui ont trait au foot, ils passent à la trappe, mais alors direct. C'est-à-dire
pourquoi
qu'en fait,
pourquoi
bah parce que ils n'en peuvent plus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont victimes de ça. Le football cannibalise toute l'actualité et prend toute la lumière toute l'année. Et donc, c'est pas qu'ils prennent leur revanche, ils vont pas le formaliser comme ça. Mais dans les faits, il y a un trop-plein de foot et donc peut-être aussi un peu de tennis, puisque c'est le sport numéro 2, pour ces athlètes qui passent les mêmes journées que les autres à s'entraîner, à se lever à 5h du mat et à avoir des programmes diététiques drastiques, mais qui n'ont pas le quart de huitième du retour sur investissement.
Je vais appuyer votre intervention par des chiffres. L'ARCOM, en 2022, a fait le compte de toutes les retransmissions sportives et la part du foot par rapport aux autres sports. Plus de 700 heures de diffusion de matchs de foot dans une année, fait beaucoup. Hein, voilà. Oui. Ça fait 30%. Voilà, le foot occupe 30% des sports diffusés, c'était en 2022. Est-ce que quand je vous dis que tous les 4 ans, c'est la revanche des petits sports, est-ce qu'on en est là? Et finalement, est-ce qu'on revient à notre question initiale?
Oui, mais par exemple,
le foot olympique.
On ne sait pas si Mbappé il les fera, a priori, ça paraît compliqué.
C'était ma prochaine question.
Mais cette volonté de faire les JO et de décrocher une médaille d'or, c'est-à-dire d'avoir le truc que Carl Lewis a eu, le truc que les plus grands athlètes du monde ont eu, je trouve ça raconte cette espèce de fusion du sport roi avec la mythologie des Jeux Olympiques. Ah. Et donc, il n'y a pas à opposer, je trouve.
Ouais, la présidente
du club.
C'est beau, quand même.
Ah, oui. C'est magnifique. Bah,
hein, mais on peut souligner quand même la
beauté. Il y a comme ça dans le Parisien.
Non, mais tous les sportifs rêvent d'une médaille olympique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que.
Mais j'aime pas que vous opposiez.
Mais non, c'est pas nous. Regarde, les petits sportifs, hein, c'est pas des petits sportifs, mais les sportifs de sport moins médiatisés, ils souffrent en tout cas du fait que le foot soit partout.
Oui.
Et effectivement, les Jeux Olympiques, c'est pas la place du foot, c'est pas l'heure du foot. Mais on... C'est justement l'heure de parler d'autres choses, d'autres histoires, d'autres personnages, d'autres sportifs qui ont d'autres difficultés, qui ont d'autres vies, qui ont d'autres émoluments souvent. Et donc on n'a pas besoin de reparler de foot au moment des Jeux. On en aura parlé pendant l'Euro, on va en parler juste après pour la Ligue 1 et tout va reprendre la grande machine. Est-ce qu'on peut avoir une parenthèse à un moment donné où le foot n'est pas au centre de la scène ?
Mélie, je fais confiance à aussi. RTL, à l'équipe et aux Parisiens.
Tu peux faire confiance
beaucoup,
à l'équipe.
Bien sûr, pour faire beaucoup plus sur le hand, beaucoup plus sur l'athlé, beaucoup plus en termes de couverture, de pages, de sons, de sonores. Tu verras que l'occupation médiatique sera remplie par les sports traditionnels des JO et que le foot... Bah, si ça se passe bien, ça va peut-être un peu déborder. Ah
oui,
plus
on est d'accord.
Thierry Henry parle bien, il y aura des sons, il y aura des articles. Mais sinon, la part réservée au foot olympique, si Mathis Tell, il est fait et qu'il met un triplé, ça va pas faire la une de l'équipe.
Moi, j'attends quand même de voir comment vont se passer les choses parce que cette espèce de séparation qu'on veut faire entre le sportif amateur issu de sport mineur et le sportif professionnel qui gagne des milliers, des cents et qui participe au JO, ça a un peu changé avec la Dream Team des États-Unis qui a mis tout en haut de l'échelon olympique une équipe qui a fait rêver tout le monde. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, ces sportifs amateurs moins habitués à la médiatisation sont très heureux de participer à un événement auquel participent aussi ce qu'était à l'époque des Michael Jordan et autres, et ce que pourrait être Kylian Mbappé, d'être dans le même village olympique, de vivre le même événement, et que finalement ce ne soit pas justement le rendez-vous des petits sports anonymes qu'on voit moins le reste de l'année.
Et le basket au JO, c'est un vrai tournoi pour les basketteurs. C'est une vraie équipe de basket, ce n'est pas des joueurs de moins de 23 ans.
Oui,
quand tu prends la Dream Team, c'était juste un truc hallucinant de niveau, en plus dans les années 90.
Oui, mais on se souvient plus de Jordan en 92, et Jordan était champion olympique en 84, et ça, on ne s'en souvient pas. Ce que nous dit finalement Timothée, c'est qu'il y a une réconciliation et quelque chose de la marque
olympique.
Mais
c'est
gagnant. Mais c'est pas pareil qu'à l'Olympique. Il n'y aura pas la Dream Team en foot au JO, puisque c'est une autre sélection. Non. La Dream Team en foot, s'il y en a une, elle est dans les compétitions.
Mais je ne sais pas si on se rend compte. Oui, mais la comparaison de Timothée, elle est intéressante, mais là. Nous, on fait des débats là pendant des heures pour savoir les choses. Vous avez commencé votre émission par ça, mais quelle équipe? Est-ce qu'on est favori? Thierry Henry, il ne sait même pas qui va avoir dans son équipe. Ouais. Il n'a même pas la main de pouvoir choisir son équipe. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas comparer le basket qui peut envoyer. Cette année, ça va être démentiel. On va avoir LeBron James, Stephen Curry. Enfin, c'est tous les mecs qu'on rêve de voir. Là, il n'y en aura peut-être que trois, si jamais les clubs sont d'accord, parce que ce n'est pas le calendrier de la FIFA. Et ce soir, et vous me parlez de l'importance ou non du foot, ce soir, celui qui a le plus grand temps de parole, hormis le présentateur de France Télévisions, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. C'est Gianni Infantino, patron de la FIFA.
Fabien Lévesque,
qu'on salue. Donc, voilà, la FIFA domine le foot.
On ne compare pas, justement. On
essaie de comparer. Mais c'est une réalité. Non, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien. Mais il faut arrêter de mentir aux gens.
Mon exemple, tu le prends un petit peu à l'envers, en tout cas par rapport à comment je le comprenais. C'est que, justement, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans cet événement qui est censé être un événement sportif amateur, on a des immenses sportifs qui veulent y participer.
Mais ils n'ont pas le droit, Timothée.
D'accord. Mais quand Mbappé dit « je veux y être, je voudrais y être, je souhaiterais y être », quand il y a dans d'autres sélections des immenses joueurs qui veulent y être, c'est la preuve que les Jeux Olympiques ont dépassé ce côté de petites histoires qu'on aimait bien, qui sont charmantes certainement, et il y en aura cette année, mais il y a de la place pour tout le monde, y compris pour le foot, y compris pour les grandes stars.
Le cœur est grand.
Puisses-tu avoir raison.
Virginie, autre chiffre, des petites tendances, vous êtes intéressée à quoi? Aux audiences télé,
hein, on a fait des petites recherche avec Émile Gillet qui produit l'émission. Le record d'audience pour un match de l'équipe de France de foot aux JO, c'était le dernier match de poule des JO de Tokyo 2021 contre le Japon, match diffusé à 13h30 devant 1,55 million de téléspectateurs. Et à titre comparatif, le match le moins regardé du dernier mondial 2022, sur les 28 matchs diffusés par TF1, c'était USA-Pays de Galles, et il a réuni quasiment 4 millions de téléspectateurs. 3,98 exactement.
Le tout en clair, hein, pas payant. Hein. Parce que pour regarder la Ligue 1, il faut dépenser 250 euros.
Une paille.
Ok, bah vous ne savez pas comment vous terminez, mais vous inquiétez pas.
Ça veut tout dire. Là, franchement, l'argument de Virginie, il est massif.
250 euros, c'était bien.
résultat, peut-être, si vous voulez, imprévu entre Dominique et Karine. Les
blancs
au jeu, ça vous excite? Le non l'emporte à 66%.
J'ai l'impression que tu as perdu, Dominique.
Ah, bah là, oui, c'est fini.
Bien sûr.
Et une autre défaite, celle de Giovanni Cassadi, qui va quitter l'aventure de l'équipe du
J'arriverai à 3h du matin chez moi grâce à Madame Hidalgo, mais je vais rentrer quand même.
À ce moment-là, ça devrait.
C'est bon, l'instant là, c'est bon. Bonne soirée à tous, excellente émission.
Merci. J'entends les pales de l'hélicoptère décoller. Le chauffeur est prêt. Hervé Renard, adieu les Bleus. C'était officieux, c'est désormais officiel. Hervé Renard donc quittera l'équipe de France féminine après les JO de Paris. C'est le président de la fédération, Philippe Diallo, qui l'a annoncé au Figaro. Hervé Renard a un contrat qui s'arrête après les Jeux. Il a fait savoir qu'il n'était pas certain de tout ce qu'il reste après. Il est mobilisé sur les Jeux et ensuite il regarde pour son avenir. Question du journaliste, si c'est Martin Couturier ou Baptiste Després, mais enfin voilà qu'on salue. Son départ est-il acté? Il l'a laissé entendre, c'est son souhait d'aller au bout de sa mission et de ne pas la poursuivre. Alors Renard qui quitte son poste après les Jeux, est-ce un désaveu pour le foot féminin? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On va retrouver ce couple infernal. On y va, jingle.
Ah oui.
Et là, c'était prévu. Là, la rencontre est très prévue. C'est une revanche entre Karine, qui nous dit que c'est un désaveu pour le foot féminin. En tout cas, vous comprenez, vous l'interprétez ainsi. Dominique, c'est non. Karine, on va vous donner la main. Vous commencez.
Ben oui, évidemment, parce que c'était un nouvel élan avec l'arrivée d'Hervé Renard, avec un homme qui avait gagné avec les garçons, qui avait une certaine aura, qui arrivait après le putsch des joueuses contre Corinne Diacre. Et au final, on a su quand même assez rapidement, parce qu'on le sait même avant la finale de la Ligue des Nations, qu'il n'avait pas envie de poursuivre l'aventure. C'est un désaveu, c'est un camouflet, et c'est aussi une nouvelle fois un coup d'arrêt pour le foot féminin, parce que là, on va donc faire des JO, en sachant que la personne qui est à la tête est déjà plus investie à 4000% parce qu'elle a finalement pas trouvé ce qu'elle espérait dans le foot féminin. C'est très décevant.
C'était une belle minute pour convaincre. Dominique, c'est vrai.
Je suis étonné, Karine, que tu restes le nez collé au guidon, toi qui connais si bien le foot féminin, que tu vois pas que le foot féminin il s'est installé dans le décor français, dans le décor du sport français depuis très longtemps. Il est diffusé sur W9, une grande chaîne. On connaît les joueuses, on connaît le sélectionneur grâce au putsch des filles, mais on connaît Hervé Renard, il y a une surface médiatique, donc on trouvera quelqu'un d'autre. Corinne Diacre, elle est connue aussi. Il y a l'affaire Amraoui, parfois pour parler du foot féminin d'une mauvaise manière. Elles ont aussi des travers des hommes. Donc le foot féminin, il est là. C'est pas la péripétie Renard qui va changer les choses.
Je vous ai laissé un peu déborder. Merci. Car Karine avait également.
Mais vous savez combien peut me citer de joueuses de l'équipe de France.
Était sortie de son.
Diani, Katoto.
Non, vous êtes un spécialiste.
Je pense qu'elle a un peu de condescendance.
Allez, mes
amis. Chiffre 3,
toujours la même question, Dominique ou Karine. Ça, c'est sur le site L'Équipe. Et Dominique et Karine pour notre présidente Bélisande.
Karine, toujours.
Parce que c'est une femme, ça, d'accord.
Non, même pas, c'est un chaos. Non, mais évidemment que tu t'es bien battu, Dominique. C'était presque émouvant. Mais comment tu peux dire que c'est pas un camouflé? Il vient d'arriver. On peut pas arguer de la lassitude du gars qui a fait des années et des années. Un désaveu, oui, mais. Ou un camouflé, même. Parce que soit parce qu'il estime qu'il a trop d'ambition pour ce poste, soit parce qu'il estime qu'il en a déjà fait le tour, soit parce qu'il a été déçu de certaines choses, mais c'est quand même un peu tôt pour déjà jeter l'éponge par rapport à l'élan qu'il était supposé incarner. Alors il y a eu la fois où il essayait de faire une petite pige en Côte d'Ivoire, et puis là maintenant il dit bon, après les JO par contre il faut que j'y aille.
Donc tu vois la fin du football féminin en France, tu penses que c'est
non, pas du tout, mais pas du tout. Mais tu dis il y a une exposition, ok, il y a une exposition, c'est vrai, il y a une vraie exposition, mais qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on a vu dans la finale de la dernière Ligue des Nations? Il y avait deux sports différents. Il y avait deux sports différents. Donc c'est bien de l'exposer, c'est bien d'en faire la promotion, mais il faut aussi que ça s'accompagne de progrès concrets sur le terrain. Mmh. Et moi je trouve des fois, ça m'interpelle de gentillesse, quoi, tu vois. Parce que, ok, les garçons, s'ils avaient joué un match comme ça, en finale d'une compétition, ils se seraient fait, mais torpiller.
Et donc c'était avec Hervé Renard. Hein.
Mais c'est pas la faute, je pense, d'Hervé Renard.
Mais donc, vous ne parlez pas de la même chose, j'ai l'impression. Toi, t'es en train de nous parler d'un désaveu pour le niveau du foot féminin français. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Hervé Renard, il fait le constat qu'il ne va pas pouvoir aller au bout de ce qu'il souhaite dans la performance et dans le projet.
Donc c'était la question qu'il abandonne.
Non, moi j'avais le sentiment que la question c'était plutôt sur le statut du foot féminin en soi. Ouais,
c'est ce que j'ai. Et donc à l'international?
Non.
Ce sont deux choses différentes.
La place du foot féminin dans la société française, dans le sport français. Non,
on peut aller sur les deux terrains.
Se sont fait laminer, elle l'a dit, Mélisande, en finale de Ligue des Nations.
Comment? Excusez-moi de parler.
Non, mais je parle ballon déjà. Donc, ce qu'on a vu lors de la finale, le score ne reflète pas effectivement l'ampleur de la différence de niveau entre la France et l'Espagne. Et tu as un sélectionneur qui est arrivé, qui a lâché l'Arabie Saoudite et des sommes folles pour l'équipe de France. Parce qu'il croyait à un challenge, parce qu'il croyait à quelque chose. Et au final, moins d'un an, parce qu'on le sait depuis un petit moment, que finalement, c'est niet. Donc le désaveu, il est sur le terrain et il est au niveau des instances. Donc c'est un double désaveu.
Je vous ai entendu dire un non sur la sortie de Karim.
Ben oui, parce que je trouve ça un peu naïf de penser que Hervé Renard vient tout d'un coup au chevet de l'équipe de France parce qu'il croit au projet. Hervé Renard est un homme médiatique. Il l'était avec les sélections africaines qu'il a dirigées. Il continue à l'être. Il est venu avec l'équipe de France
principalement pour
Hervé Renard. Plus que pour gagner, pour s'exposer, parce que c'est un gagnant certainement, ça je n'en doute pas, un bon entraîneur, je ne dis pas le contraire, mais il est aussi venu pour lui, pour sa propre communication. Il savait qu'il n'irait pas au-delà, à mon avis, dès le début, qu'il n'irait pas au-delà des JO. Les JO étaient l'occasion de mettre un gros coup de projecteur sur le football féminin et donc sur Hervé Renard, donc il va prendre ce qu'il y a à prendre et s'en aller après. Pour moi, c'est un désaveu, ce serait un désaveu pour le foot français, sur le nom de son successeur. Parce que lui, effectivement, a amené de la lumière sur, un peu plus de lumière encore, on va dire, sur l'équipe de France.
Il y en avait déjà.
Mais faut dire ce qu'il est. Il apporte un attrait médiatique. Ça venu apporte un attrait médiatique. Il remplace Corinne Diacre et les prédécesseurs que je pourrais difficilement citer. Si le prochain qui vient est un entraîneur anonyme, inconnu, de seconde zone, à ce moment-là, ce sera, oui, un désaveu. Si en revanche, on est sur le même genre de profil ou même un profil meilleur, eh bien c'est la preuve qu'effectivement le football français féminin attire et sera intéressant.
Juste, donc en coulisses, la fédération a inversé Corinne Diacre et cherché un nom médiatique. Le premier nom coché fut Thierry Henry, refus de l'intéresser. Le second fut Hervé Renard. Donc en France, si je comprends bien, développer le foot féminin, c'est choisir un nom populaire pour sélectionner. C'est un peu court.
Je suis d'accord. C'est pas comme ça qu'on développe un sport. C'est un désaveu
pour le foot féminin.
C'est comme ça qu'on y participe.
Déjà, l'idée de mettre banco en disant Hervé Renard, parce que je vous entends, Hervé Renard, nom médiatique, ça veut dire des trucs.
C'était un prix
court pour.
On va même aller plus loin. Moi, sans manquer de respect à Thierry Henry, je pense que le nom de Thierry Henry, il est aussi du fait qu'il fallait mettre la lumière sur les JO. C'est-à-dire que ça va au-delà de la fédération. Ouais. C'est un projet ministériel.
Ouais. Politique.
C'est un projet politique.
Bah oui. Je veux dire, la ministre, Mme Oudéa-Castéra, elle était au cœur du dossier. Mmh. Philippe Diallo est un relais du ministère.
Donc Hervé Renard l'a compris qu'il s'en va après.
Donc, quelque part, c'est les JO parasite un peu ce débat, autant pour le football féminin que pour la sélection espoir, parce qu'on verra aussi dans un an, dans deux ans, qui est à la tête de la sélection espoir. Mais si Thierry Henry est toujours investi à 200% dans cette mission-là.
Quel est le sélectionneur qui, au bout d'un an et demi, jette l'éponge dans les grandes nations? Normalement, t'es viré, en fait. Ouais. C'est rarissime de voir un sélectionneur qui dit « j'arrête ». Vous avez d'autres exemples à me proposer?
Tu connais le profil d'Hervé Renard. Il a évidemment d'autres ambitions. Il voit évidemment autre chose pour sa carrière.
Mais sa carrière, il en a déjà une très belle.
D'arriver avec l'équipe de France.
Et si il avait trouvé ce qu'il espérait en bleu, après un an, il n'aurait pas dit déjà c'est fini. Parce qu'on le sait depuis la CAN. Donc au final, avant même d'être qualifié pour la finale de la Ligue des Nations et il a brillamment battu l'Allemagne, on savait déjà que c'était terminé l'aventure. C'est-à-dire que l'aventure, elle commence et elle finit très vite. Donc la progression, elle est où ?
Je suis d'accord avec toi, c'est un désaveu pour l'équipe de France féminine, mais c'est pas un désaveu pour le foot féminin.
Non, mais
on ne sait pas depuis la CAN.
Le foot féminin,
depuis qu'il a signé, Philippe Diallo. Et point. Il veut faire ça, il veut.
Non mais depuis la CAN, on sait qu'il dit stop.
On va donner la parole à Philippe Diallo et Hervé Renard. Ils ont été interrogés, ces deux hommes, sur le départ après les JO d'Hervé Renard. Ils l'assurent, sans impact.
Évidemment.
Hervé a dit un petit peu de la façon dont il envisageait son avenir. Moi, je sais qu'il est totalement concentré sur l'équipe de France. L'équipe est prête. Elle sera prête et Hervé est, je pense, totalement mobilisé pour nous amener sur la plus haute marche.
Oui, mais c'est surtout, moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le football féminin français. Mais moi, ce n'est pas le très important. Le plus important, c'est de penser aux filles.
Pas faux. Galli ou Sévrac? Sévrac ou Galli? Qui gagne ce duel? Désaveu ou pas pour le football féminin? Karine, c'est à peu près le même score. Hein.
Ça baisse un peu.
J'ai l'impression que la soirée est toujours compliquée, Dominique.
Il y aura peut-être une belle.
Je ne crois pas.
Je ne sais pas, je suis pas certain. En début d'émission, vous aviez le feu. Hein.
Ouais,
vous avez pris le feu plutôt.
J'ai le feu sacré.
D'accord. Deschamps tout puissant, on en parle, c'était la une de l'équipe. On a fait quelques recherches sur le travail d'Hubert Fournier qui aimerait, on va dire, moderniser un peu la gestion des tirs au but. Ça semble mal parti, à tout de suite.
un spécial JO, un spécial équipe de France, un spécial bleu de France ce soir. Passons à la ligne de l'équipe, Deschamps tout puissant, c'était à la ligne de l'équipe du jour. Entrons dans ce débat avec un cas extrêmement concret. Y aura-t-il un travail entrepris par les équipes de France sur les fameuses séances de tir au but? La réflexion avait été émise au mois de février sur les ondes d'RMC par le DTN Hubert Fournier. La tendance... Et plutôt non, d'après ma petite enquête, le point de bascule, notamment, c'était jeudi, conférence de presse, on sait tous, Didier Deschamps passe à la moulinette, Hubert Fournier le détène. Regardez, écoutez.
Ce qui me gêne et je trouve déplacé, oui, c'est la sortie médiatique du DTN. Et déplacé, et je dirais même irrespectueuse, mais ce n'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but, les analystes vidéo... C'est des mecs qui sont compétents, qui font du boulot.
Vous êtes senti attaqué du coup
c'est, Non, c'est pas moi. Moi, attaqué, moi, j'ai pas de problème. Après, qu'il y a peut-être de mauvaises intentions, et je vise pas spécialement le DTN de certaines personnes. Oui, c'est de notoriété publique.
Depuis jeudi, cette sortie au Karcher, ces silences radio à la Fédération, on se crispe à l'évocation de cette étude en cours, le sujet devenu tabou, hautement toxique. C'est un point de tellement de tension entre les entraîneurs nationaux que certains ont même changé d'avis, passant du camp Fournier au camp Deschamps. C'est plutôt cette annonce-là moi, qui m'est revenue. Ce feuilleton devra prendre fin dans un mois, fin avril, avec une réunion de tous les entraîneurs des équipes de France. Mais le plan Fournier semble avoir déjà... du plomb dans l'œil, un peu un projet morné. Alors Deschamps enterre le projet sur les tirs au but. Est-ce une erreur? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Attention, duel inédit ce soir dans l'équipe du soir. Enfin,
Karine.
Allez, jingle.
Karine contre Doumé.
Eh non, c'est Timothée contre Philo. Voilà, vous commencez un débat. Vous existez bien aussi dans l'équipe du soir. Est-ce une erreur? Oui pour Timothée, non pour Philippe. Timothée, oui, c'est une erreur. Pourquoi? Allez-y.
Bah pour moi, c'est une erreur d'enterrer le débat, mais c'est surtout une erreur d'en faire une affaire de personne, parce que c'est bien là le problème, en faire une affaire d'ego, c'est le plus gros problème de cette histoire. Mais c'est une erreur d'en faire un débat, parce que j'entends bien les entraîneurs qui disent et qui répètent et qui ont raison en disant on peut s'entraîner 100 fois une séance de tir au but, ce qu'on fera à l'entraînement, on n'aura jamais la pression d'une fin de match, la pression d'une véritable séance. Mais à ce moment-là, faire une passe aussi. Faire une passe à l'entraînement et faire une passe en Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. Donc c'est quelque chose à travailler, faire des gammes, réfléchir, avancer sur ce sujet et pourquoi pas le faire, mais pas en faire une affaire d'homme en tout cas.
Vous avez voulu naître, vous avez vu que les 30 secondes étaient passées. Attention mon Timothée. Philippe s'enfourche. Non, pourquoi? C'est pas une erreur.
Le sujet des séances de tir au but perdues à répétition par les équipes de France, que ce soit un problème auquel on s'attaque, oui, pourquoi pas. Mais il a été pris par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le dit Didier Deschamps, ça voudrait dire que tous les sélectionneurs sont nuls de tous les temps. En équipe de France masculine, féminine, Deschamps, il a gagné tout ce qui était possible de gagner. Donc il n'a pas le sens du détail. Il n'a pas compris qu'il fallait travailler certaines choses. C'est pas ça le problème. Je pense qu'il y a effectivement un problème culturel en France, qui est peut-être l'héritage de Séville 80. C'est-à-dire le truc du perdant magnifique, et qu'une fois qu'on a terminé un match, on néglige un peu la suite.
Okay, d'accord. Une erreur. Non, pas forcément pour Philippe. Oui, peut-être. Une occasion peut-être manquée pour Timothée. Le site, l'équipe et l'arbitrage de mise en.
Pas facile. Moi, je suis d'accord avec Philippe. J'ai trouvé la sortie dans la forme extrêmement étonnante.
Vous parlez d'Hubert Fournier.
Je trouve ça lunaire de penser que personne ne travaille, que le préparateur des gardiens et les analystes vidéo, ils viennent pas voir le gardien en lui disant lui il tire là, lui il tire là, lui il a l'habitude de tirer là, lui il ferme son pied, lui il ouvre son pied. Tout le monde le fait, et j'imagine que la France, qui a quand même eu des résultats plutôt convenables sur les dernières décennies en foot de sélection, a travaillé aussi ça. Après, tu veux travailler quoi? Faire des gammes, évidemment, comme tous les attaquants. Tu peux dire ça de n'importe quel geste technique devant le but. Donc ça, ils le font en club, ils le travaillent. J'imagine que les attaquants travaillent les tirs au but. Mais voilà, c'est pas un coup de baguette magique que tu vas te mettre à gagner tes séances, effectivement. Mmh. Et j'arrive pas à croire que personne ne les bosse à la Fédé. Donc d'accord avec Philippe.
Ok, que disait Hubert Fournier le 6 février donc sur les ondes d'RMC? Juste un propos qui résume un petit peu l'esprit de son intervention. C'est Didier Deschamps qui est le responsable, tout part de lui.
il le mettait vraiment dans la boucle sans l'avoir averti, c'est ce qu'on a appris après. Il devra proposer aux joueurs un scénario en contextualisant au maximum les tirs au but, puis proposer des exercices variés pour créer de la confiance chez les tireurs. On insiste aussi, cela concerne 11 joueurs, pas d'échappatoire. Chez les filles, tout le monde a été obligé de tirer. Il y a un grand travail à faire avec les gardiens qui sont un élément capital. Mettre en place une stratégie avec les entraîneurs des gardiens pour qu'ils aient une connaissance des tireurs pour créer de la confiance, et puis une stratégie d'influence vis-à-vis de la vestiaire. Moi, ce qui m'est revenu aux oreilles, c'est qu'à la Fédération 1, on avait déconseillé à Hubert Fournier de parler publiquement, et que sa réforme n'était pas assez aboutie, et qu'Hubert Fournier a voulu un petit peu se faire mousser. Est-ce que vous avez entendu ce genre d'écho vous revenir également aux oreilles?
Voilà. Oui.
Aussi, pareil.
Il a imposé, c'est même pas qu'on lui a déconseillé, c'est qu'il avait déjà pris le rendez-vous, et que quand il l'a annoncé aux gens de la communication, ils ont été mis devant le fait accompli, ils lui ont dit « il n'est pas trop tard pour refuser », et il a dit « non, j'irai quand même ».
Ok.
Ça ressemble à une échappée solitaire un peu, effectivement, irrespectueuse, quoi. Là, il n'y a pas le son, donc je ne sais pas comment il le dit, mais j'ai l'impression qu'il parle, il y a des choses comme si c'était un petit garçon, quoi. Bon, c'est finale de l'Euro 2016, c'est victoire de la Coupe du Monde 2018, c'est finale de la Coupe du Monde 2022. Il y a deux, trois trucs qu'il a gagné dans sa vie, quoi. Palmarès de joueurs assez longs comme le bras.
Oui, mais voilà. Ok, très bien. Que Deschamps soit un entraîneur brillant.
En plus, les pistes évoquées et contextualisées au maximum. Donc déjà, comme le disait Timothée, c'est impossible. C'est ce que faisait Luis Enrique. Il l'avait fait. Il nous a expliqué ça à l'Euro en 2021. Ouais, que lui, les joueurs partaient du rond central à l'entraînement. Ils partaient du rond central. Ils marchaient tout seuls jusqu'à la ligne. Ils posaient le ballon. Ça faisait comme en match. Et comme ça, ils étaient dans le truc. Bon, et ben l'Espagne a perdu au tir au but.
Les amis, voilà,
parce qu'après t'as le gardien, ah bah t'as Donnarumma, ah bah tant mieux.
Je vous prends au mot.
Les Italiens avant lui, ils perdaient les séances.
Je vous prends au mot. On va regarder un truc. On a encore les droits sur les tirs au but d'une finale perdue par une des équipes de France. C'est les U17, c'était contre l'Allemagne, c'était en novembre dernier. Alors j'ai isolé un premier tireur, c'est un Nantais, il s'appelle Bastien Mepiou, c'est le quatrième tireur, c'est une balle d'égalisation à 4 partout. On voit déjà que bah, c'est vrai, psychologiquement on voit que ouais, les yeux qui piquent. On voit le gardien là, le gardien allemand Constantin là, qui lui fait, tu vas voir, tu vas tirer. À droite. Regardez ce qui se passe. Voilà. Est-ce que là, voilà. Non mais on a un cas concret, on a un truc. Là, est-ce qu'on est toujours en se disant c'est psychologique, le gaz foire et tout ça, ou est-ce qu'on peut éventuellement donc reprendre cette séquence pour redonner un conseil, pour avoir une préparation, pour l'automatiser.
C'est du Bruce Grobelard. C'est la victoire psychologique du gardien sur le tireur.
Oui, mais maintenant le tireur.
C'est du Michael Landreau. Pas une fois j'ai vu ça. Tu prends l'ascendant sur le tireur.
Martinez est bon là-dedans. Dibou Martinez en finale de la Coupe du Monde.
Tu peux faire ce que tu veux, tu peux le travailler comme tu veux.
Ça c'est purement factuel, vous l'analysez comme ça. Mais maintenant, si vous êtes Détène, si vous êtes un technicien, si vous êtes Franck Raviot, si vous êtes quelqu'un de l'équipe de France, vous dites voilà, vous avez ce garçon comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un conseil, un accompagnement, un conseil technique pour réussir ce geste-là?
C'est un peu ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure. L'exemple qu'on prend là, il avait 120 minutes dans les pattes, il est cramé, je ne sais pas s'il y a les yeux qui piquent, je ne sais pas si le gardien entre dans sa tête ou pas. C'est extrêmement difficile et tu ne pourras jamais le reproduire. Tu ne pourras jamais reproduire à l'entraînement l'ambiance d'un cop hostile derrière la cage. Mais ceci dit, ce serait quand même pas idiot de se poser la question tous ensemble. Effectivement, de ne pas faire une sortie d'un coup avec une réforme bâclée en se disant que les entraîneurs ne le font pas, parce que c'est évident que tous les entraîneurs dans les clubs et dans les sélections le font. Mais peut-être à ce moment-là qu'on peut réfléchir à un travail psychologique, à essayer d'aider ceux qui pourraient potentiellement tirer, se dire qu'avant le début de la rencontre, on va en préparer une poignée à tirer, 6 ou 7. Alors des fois, ça arrive à 11, tant pis, mais voilà, je ne sais pas. On a le droit d'y penser. On a le droit d'essayer de faire évoluer cet aspect. Oui, mais
on peut aussi se dire.
Mais j'en suis sûr.
En fait, pourquoi dire un truc qui est déjà fait?
Non, mais d'accord, Franck Raviot travaille, mais à ce moment-là, au titre de direction technique nationale, tu peux impulser quelque chose de général.
Ne le faites pas. Ah, Philippe. Ah. On est en direct jusqu'à 1h du matin. On va vous laisser un petit peu de temps pour vous exprimer.
On peut rester chez nous. 2-3 heures. 2-3 heures, on peut rester.
Tu penses que tu auras gagné un duel d'ici là?
Ça dépend de ton truc qui arrive.
Allez, pause, à tout de suite. Deschamps enterre le projet sur le tir au but. Est-ce que c'est une erreur? On était en train de l'évoquer juste après la pause. Et puis, à un moment, j'ai lancé la publicité. J'ai eu un « Ah !» de Philippe Sansfourche, c'est déjà terminé. Philippe, cette émission est généreuse. Philippe, qu'est-ce que vous voulez absolument nous dire avant la pause? J'espère que vous n'avez pas oublié pendant cette trop courte pause. J'ai l'impression que je vous prends un peu là. Non, mais il y avait quelque chose, il y avait une déception. Vous vouliez parler de quoi? Alors que Timothée Bémon nous disait « Dommage, peut-être pas de... » d'avoir quelques axes de travail, d'enterrer finalement ce projet-là, ou en tout cas cette envie de travailler.
En fait, j'en reviens à ce que j'avais brièvement abordé, mais dans les 30 secondes, il était difficile de le développer totalement. Mmh. Je pense que culturellement, ça n'est pas dans l'esprit global et même dans la formation du footballeur français. Je pense que, sans en faire des caisses, mais dès les centres de formation à l'école de foot, on peut insister un peu plus sur le geste technique du pénalty pour qu'effectivement, ça rentre dans un espèce une gestuelle comme ça qui soit plus naturelle et où des joueurs soient capables de pouvoir l'assumer au-delà du côté psychologique, déjà que techniquement ce soit un geste qui soit plus fluide. Et effectivement, il n'y a pas besoin de regarder des séances sur des finales de Coupe du Monde. Il suffit de regarder, j'ai le souvenir cette année en Coupe de France, c'est Rennes-Lens.
Oui, non, Rennes-OM.
Rennes-OM. Rennes-OM. Mais la séance, elle est dramatique. Oui. On parle quand même de deux des plus grands clubs français.
Est-ce que tu ne sens pas culturellement que c'est en train de changer avec la génération, on va dire, Maignan, si on peut l'appeler comme ça?
Alors ça, c'est Mbappé. Les gardiens, c'est encore... C'est, je pense que les gardiens ont intégré ça, effectivement.
Est-ce que tu ne crois pas que là, on est en train de changer?
Les gardiens ont compris que c'est une palette supplémentaire
même,
et que certains...
Mbappé s'est amélioré dans l'exercice, par exemple. On se souvient tous du tir au but contre la Suisse. Je trouve qu'il les tire beaucoup mieux désormais.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Je pense qu'il les a travaillés.
Il les travaille, je pense.
Je pense qu'il les a travaillés.
Oui, mais d'un autre côté, il y avait.
Mais personne n'a dit ce soir qu'il fallait pas les travailler. Je crois pas que des
gens. Non, personne n'a dit ça.
Mais est-ce qu'il y a un travail spécifique,
mais
un
c'est,
soin,
mais quelque... c'est compliqué parce qu'après, il y a quand même le moment du match et plus l'enjeu est lourd.
Mais oui,
voilà. Regarde, Louis Enrique, encore lui, quand il avait dit, ils en ont tiré 1000 chacun. Je leur ai dit, vous allez dans votre club. Je veux que avant la phase finale, vous en ayez tiré 1000 chacun. Ils en ont mis 0. Ils ont fait 0.
Ils
ont tiré les trucs n'importe comment, et c'est des joueurs qui techniquement étaient vraiment au niveau. Il a pas fait tirer. Donc tu sais que c'est des joueurs qui sont capables d'en tirer, d'en marquer quand on marquait plein. Et ben ce jour-là, ils les ratent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Tu crois qu'ils n'ont pas, ils n'en avaient pas tiré.
Messi, qui est le plus grand joueur de tous les temps, en a raté. On sait que Zico.
30. Ouais, là, 30. Et pourtant, il a tiré énormément de pénalty, il en a réussi plus de 100, mais 30, je crois, il y a eu à peu près 30.
Après, tu as quand même aussi, sur les résultats de ton équipe nationale, la part du gardien. Il y a des gardiens qui sont plus ou moins à l'aise dans l'exercice, et Maignan, il est effectivement à l'aise dans l'exercice.
Mais le problème aussi, Deschamps, il n'a pas été gâté à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il a eu Mandanda qu'on n'arrêtait pas un, et très vite Loris qu'on n'arrêtait pas un. Donc peut-être qu'il n'a pas aussi insisté là-dessus, alors qu'aujourd'hui, effectivement, avec Mike Maignan, tu vois que c'est quelque chose qui l'anime. Il aime les séances de tir au but. Il est quand même un impact sur le tireur, et donc peut-être que ça va aussi évoluer dans ce sens-là.
Quand Philippe a rappelé Séville 82, RFA et tout ça, voilà, c'est une séance de tir au but, l'équipe de France, ça va ça. Comme les Bleus restent sur 3 échecs de suite, je mets 2006, hein, 2021, 2022, les Dames restent sur 3 échecs ici consécutifs 2013, 2015, 2023. Les catégories jeunes, je vous ai montré là, cette finale de la Coupe du Monde des U17, mais dans la même année, il y avait l'Euro, bis repetita, encore un échec sur penalty et toujours face aux Allemands. Et puis, pour l'Euro, j'ai une stat. Sur les 4 derniers lauréats, Italie, Portugal, Espagne, eh bien, ces 4 lauréats ont au moins passé un match en passant par les tirs au but. Il faut remonter en 2004 pour avoir un LEA, c'était la Grèce, qui avait gagné le trophée sans passer par cette épreuve des tirs au but. Donc, ce qu'on peut
nous aussi, 98, on s'en souvient, évidemment, face à l'Italie.
Oui, mais c'est à l'Euro, vraiment, c'est quelque chose où le niveau est extrêmement dense, extrêmement serré, et il arrive assez régulièrement. Et ça, c'est... Cette séance, on pose un peu les jalons. Je ne sais pas si Hubert Fournier, on a dit, maladroit, peut-être un dossier inabouti, mais... question sur les tirs au but, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui nous passionne.
Moi, je crois vachement ça, c'est incantifiable, mais... Je crois qu'il y a ce poids culturel qui dépasse même le foot, c'est le sport français. Il y a un côté chevaleresque, il y a un côté on gagne sur le terrain. Finalement, les tirs au but, c'est pas digne d'une belle victoire. C'est pour les Allemands, c'est-à-dire ils sont
devenus un peu les Allemands.
Voilà, ils nous battent
Philippe,
ça.
Tu peux pas dire ça.
Moi, je crois qu'il y a quelque chose de ça.
Tu ne bats pas l'Italie, la Coupe du Monde est ratée.
Oui, mais évidemment, heureusement, il y a des exceptions qui confirment la règle. Mais globalement, tu t'aperçois quand même que je pense qu'on a très longtemps un peu dénigré cet exercice parce que c'était pas noble de gagner finalement au tir au but. Et qu'une fois que le match est terminé, dans cet exercice, on l'a dit, il y a une grande part de psychique et en gros, il faut avoir envie de marcher sur l'adversaire. C'est-à-dire que tu vas, tu te dis, on va. Timothée, c'est pas français ça.
Timothée Joucou, parce que Virginie, ça se passe comment chez nos voisins? Notamment, vous êtes intéressé sur le patient anglais, c'est ça? Ah,
hein, dans son histoire, l'Angleterre n'a remporté que 3 séances sur 10. 3 seulement. Et c'est la défaite en finale de l'Euro qui a poussé Gareth Southgate à innover à la Coupe du Monde 2022. Maintenant, il travaille l'exercice technique sans gardien, avec un filet spécial dans les cages qui ne laisse ouvert que les coins supérieurs et inférieurs. L'objectif, c'est de travailler la précision des tireurs sans entamer leur confiance si jamais le gardien l'arrête.
On est tous d'accord pour dire que la séance des tirs au but, si on les travaille, ça ne garantit pas un succès à 100%. Est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'un entraîneur se dit faut que j'invente un truc, je change un peu de méthode, je rompe un peu avec la monotonie, avec le truc, au moins de changer un peu le logiciel et la préparation.
Est-ce qu'il faut
quelque chose? J'allais y venir à l'Angleterre. C'est un traumatisme en Angleterre, les tirs au but, avec de nombreuses séances qui les ont éliminés de différentes Coupes du Monde et différents Euros. Alors, peut-être effectivement que c'est l'exercice le plus difficile, c'est l'exercice où on a le moins de maîtrise, où on essaye d'inventer de nouvelles choses. Mais est-ce que c'est parce que c'est le plus difficile qu'on doit s'arrêter de travailler et dire non?
Mais non, mais c'est pas s'arrêter de travailler.
Il y a une part, on le dit, il y a une part de psychique.
On ne s'arrête pas de travailler. Hein. Je pense qu'on est ni contre Deschamps, ni contre Fournier, nous on a un peu.
Par exemple, Southgate, en finale, il fait entrer 2 joueurs exprès pour la France. Catastrophe. Ça ne marche jamais. Okay. Et Bukayo Saka, tu n'as pas touché un ballon du match. Ils ont joué 120 minutes. Ton premier ballon à Bukayo Saka, c'est quasiment le tir.
Parfois, tu le fais sur un gardien.
Donc tu l'envoies au pilori.
Parfois, tu le fais sur un gardien qui n'a pas touché un ballon.
Non, mais les gardiens, c'est différent. Le gardien, c'est différent. Comme l'avait fait Van Gaal
au Brésil. La pression sur le tireur et la pression sur le gardien dans cet exercice est complètement différente. Parce que le gardien, s'il encaisse le but, c'est pas grave, c'est prévu. S'il l'arrête, c'est l'exploit. Inversement, le joueur qui rate.
18 décembre 2022, tu étais là quand t'as écouté ce qu'on a dit sur Loris ou pas? T'as entendu?
Non mais d'accord.
Il a un peu mangé quand même.
On est quand même d'accord pour dire que la pression n'est pas la même pour le gardien de but qui, en cas d'arrêt, réalise un exploit et sur le gardien qui, en cas de raté, est la risée du monde.
Mais
c'est ça,
on est d'accord. Donc Southgate, il a travaillé les séances de tir au but après et les pénaltys après l'Euro 2021. Et donc l'Angleterre, ils se sont éliminés comment de la Coupe du Monde 2022?
C'est ce que je te dis. Je te dis pas que ça marche.
Envoyé dans le ciel
donc parce qu'il a essayé quelque chose de nouveau et que ça n'a pas marché, on s'arrête.
Moi, je le remercie, Harry Kane, mais parce que sinon, tu vas pas en finale. Hein. Donc, tu peux travailler tout ce que tu veux.
Mes amis, nos positions sont irréconciliables.
Non, je pense qu'on a avancé quand même. Timothée,
Philippe.
Enfin, succès de la droite sur ce plateau.
Bien sûr.
C'est pas fini.
Mais qu'est-ce que c'est que cette musique?
Ça, c'est la musique du beau gosse.
Voilà. Mais c'est qui a chanté ça?
Comment? Mais je ne sais pas.
Il y a un auteur.
Moi, je suis arrivé au mois d'août, on m'a mis ça.
Il y a un auteur, mais il n'ose pas dire.
C'est PZK, quoi, franchement. C'est un petit groupe.
PZK?
Oui, j'ai l'impression que vous êtes choc bas. PZK, c'est un véritable banger.
Franchement, je le présente, il n'a pas
cette musique. Les amis,
elle est choc bas.
Virginie Saint-Cylie pour les infos du soir. En Ligue des champions féminines, le PSG prend une option pour les demi, un peu comme hier avec l'Olympique Lyonnais.
Victoire 2-1 face aux Suédoises d'Aken. Elles se sont bien lancées dans le match avec un but de Gaetino pour sa toute première apparition en Ligue des champions. Elle marque à la 23e après un bon centre et la tête repoussée de Chawinga. Kafaji égalise sur pénalty avant la pause, frappe contrée d'abord, elle récupère derrière. Et c'est encore Tabitha Chawinga qui va donner la victoire aux Parisiennes à la 74e. Le contrôle puis la frappe, ce qui fait 20 rencontres d'affilée sans défaite, toutes compétitions confondues pour les joueuses de Jocelyn Précheur.
Mike Maignan encore absent de l'entraînement des Bleus.
C'est la 3e fois cette semaine et la chance de le voir dans les cages samedi face à l'Allemagne. Étape c'est réduite. Le forfait n'est pas acté, mais le gardien de Milan souffre d'une douleur tendineuse aux ischios. La décision sera prise demain. Brice Samba devrait le remplacer. Il y aura une charnière Koundé-Pavard a priori, ou Upamecano et Lucas Hernandez dans les couloirs. Zaïre Emery, Rabiot pour l'entrejeu, Tchouaméni en pointe basse. Et puis devant, c'est Marcus Thuram qui devrait démarrer comme avant-centre, avec Mbappé à gauche et Dembélé à droite.
On a la compo probable là, qui s'affiche parce que c'est en 4-3-3. Je vous ai lu Dominique Sévrac aujourd'hui dans le Parisien. Il y avait 2 scénarios possibles pour Didier Deschamps. 2 scénarios possibles, c'est soit le 4-3-3 avec un milieu à 3, ou soit un 4-4-2 avec éventuellement
pour remplacer Griezmann.
Pour remplacer Griezmann. Merci de remettre dans le contexte. Avec un milieu asymétrique qui pourrait être Camavinga. C'était un peu dans la tête de Deschamps. C'était ça ce que vous nous avez livré. Hein. Ce soir, il semble que l'option numéro 1 ait été choisie.
Tout à fait. C'est celle qu'on a privilégiée.
Ok. Mais avec Didier. Vous faites
évidemment.
Oui, d'accord.
Évidemment,
okay.
Non, on travaille. On travaille les pénalties, on travaille tout.
L'Allemagne, donc adversaire des Français, ça sera sans Neuer pour affronter la France un samedi à Lyon.
Il est touché aux adducteurs, oui. Le portier du Bayern s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Il manquera le match de samedi contre les Bleus, mais aussi celui d'après contre les Pays-Bas. La bonne nouvelle pour la Mannschaft, c'est le retour de Toni Kroos, sorti de sa retraite internationale spécialement pour l'Euro. Le milieu de terrain était en conférence de presse.
Lorsque le sélectionneur m'a contacté pour savoir si je voulais participer à ce tournoi, la chose la plus importante que je me suis demandé, c'est est-ce que je peux aider l'équipe ? Je pense pouvoir répondre oui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux aider l'Allemagne à réaliser un meilleur tournoi que ce que tout le monde imagine, et ce, dans son propre pays. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer ce qui s'est passé ces dernières années. Je vais simplement essayer d'apporter ce que je peux et faire ce que j'ai toujours fait, en espérant que je pourrai aider l'équipe.
L'actu du soir, les Bleuets, les Bleus Thierry Henry connaissent leurs adversaires pour les prochains JO. Les groupes à présent.
Ils connaissent le calendrier aussi. Le premier match sera face aux États-Unis le 24 juillet. Ils affronteront ensuite le vainqueur d'un barrage entre une équipe du continent asiatique et une équipe du continent africain, ce sera le samedi 27 juillet. Et puis, ils termineront par un match contre la Nouvelle-Zélande le 30 juillet au Vélodrome à Marseille.
France-États-Unis, c'est lundi, match amical sur la chaîne L'Équipe. La répétition, ce sera entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir. Hervé Renard et les Bleus, Canada, Colombie et Nouvelle-Zélande, c'est dans le groupe A. On est d'accord ?
On peut dire qu'elles ont échappé au groupe de la mort, mais ça reste solide. Avec les Canadiennes championnes olympiques en titre, la Colombie de la pépite Linda Caicedo, l'attaquante du Real Madrid, et puis la Nouvelle-Zélande. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, ainsi que les deux meilleurs troisièmes sur l'ensemble de ces groupes.
On l'a pris avec un peu de surprise. Dani Alves a été libéré sous caution.
L'ancien joueur, condamné en février dernier à 4 ans et demi de prison pour le viol d'une jeune femme dans une discothèque à Barcelone, a obtenu sa libération provisoire, moyennant le versement d'une caution fixée à 1 million d'euros. Caution payée a priori par le clan Neymar, selon la presse espagnole. C'est déjà l'ancien Parisien qui avait pris en charge les frais d'avocat et le versement de l'indemnisation de la victime à hauteur de 150 000 euros. Dani Alves, lui, reste sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel. Il devra se présenter au tribunal une fois par semaine.
Robinho l'a pris ce soir, 9 ans pour viol collectif aussi. Ok. Super. Alexander Djikou revient sur la bagarre générale en Turquie après le match entre Trabzonspor et Fenerbahçe.
L'ancien Strasbourgeois l'a vécu, cette bagarre générale. Il était même au premier plan puisqu'il joue désormais pour Fenerbahçe. Il a raconté les détails dans l'équipe de Greg.
Ben, on l'a vu dès le début, voilà, avec des lancers de projectiles. Après, bon, comme dans tous les stades qu'il peut y avoir, peut-être au début de match, on va dire que ça se passe dans beaucoup de championnats. Mais après, jusqu'à la fin, quand même, on trouvait ça que c'était un petit peu plus menaçant, quoi. Après, on l'a vu à la fin du match qu'on a célébré. Il y a un supporter qui est venu, voilà, tout seul pour essayer de se battre avec nous, clairement. Et après, voilà, on a vu directement quelques secondes plus tard, que ça a dégénéré totalement, qu'on essaie de rentrer au plus vite dans le vestiaire pour avoir le moins de dégâts possible. On a vu que ça a duré peut-être une ou deux minutes, mais bon, une ou deux minutes quand c'est une bagarre, c'est très long.
Passons au rugby, la confidence de Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, en conférence de presse de débrief aujourd'hui.
Initialement, il était là pour dresser le bilan du tournoi des Six Nations. Mais voilà, il en a profité pour raconter qu'en février dernier, il a croisé Ben O'Keefe, l'arbitre du quart de finale de la Coupe du Monde. Et la défaite n'est toujours pas digérée.
Après un match, on ne peut pas remettre en question une décision arbitrale. On doit se comporter comme le rugby nous a appris, c'est-à-dire avec respect. Par contre, lorsqu'on se retrouve 4 mois plus tard, 5 mois plus tard à discuter techniquement de l'arbitrage, des décisions, de position, de placement, et qui sont discutables de manière rationnelle, très discutables. Et j'ai discuté avec Ben O'Keefe en tête à tête, de manière très fair play. Et lui-même m'a dit que, eh bien, il m'a dit sa vision de sa performance. Il n'était pas satisfait de sa performance. Il n'était pas du tout satisfait de sa performance.
Ah, pour Galthié, Ben O'Keefe, le coquin n'était pas satisfait de sa performance et c'est la preuve que la France s'est fait avoir par l'arbitrage lors de ce match France-Afrique du Sud, ça ricane. Mais c'est le débat du Minuit Info, Jingle.
On sera là, on est là.
Vous rigolez, c'est plutôt quoi, vous ?
Ça m'énerve, ça m'insupporte. Ce côté Christophe, comment il s'appelle ? Fabien Galthié.
Fabien Galthié, Christophe Galthié, c'est au Qatar.
C'est pas le même.
On va aller voir Hugo Bonneval qui nous attend du côté de chez lui à son domicile. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Il fait beau chez vous.
Vous allez bien, tout le monde?
Oui, je le dis, hein, vous êtes aux États-Unis, hein, c'est pour ça qu'il fait jour chez vous, hein, décalage horaire.
Voilà. Je suis rentré hier soir.
Vous avez écouté, Hugo, les déclarations de Fabien Galthié. Il dit qu'un, finalement, l'arbitre n'était vraiment pas satisfait de son match. Est-ce que c'est la preuve que la France s'est fait avoir dans ce quart de finale dont on cesse de parler de l'arbitrage, mon cher Hugo?
Ouais, c'est surtout la preuve que Fabien est très intelligent et qui profite de cette petite entrevue avec l'arbitre du quart de finale pour éviter pour éclipser ce qui s'est passé durant le tournoi. Voilà, alors autant je pense que c'est intéressant pour la suite au niveau international pour lui d'avoir des infos et de savoir un peu comment les arbitres pensent et comment son capitaine ou les joueurs leaders peuvent impacter les décisions de l'arbitre avec leur body language, etc. Autant je pense qu'à ce moment-là de parler de ça c'est ridicule parce que tu sors d'un tournoi, alors tu finis bien, mais bon, qui s'est pas très très bien passé non plus, et tu passes à travers les mailles du filet en reparlant de ce quart de finale qui finalement ne changera rien au résultat. Et voilà, je pense qu'il faut avancer malheureusement. Et
refaire le match, c'est aussi la nature même du sport de niveau. Philippe a peut-être une réflexion, vous allez rebondir Hugo. Vous, c'est vraiment l'arbitre en rugby et l'interprétation. Alors on a beaucoup ce débat en foot, mais en rugby, vous me dites, finalement, j'ai le sentiment que c'est encore un cran au-dessus. On vous donne la parole, Philippe.
Moi, je, n'étant pas un spécialiste de rugby, je regarde ça avec un œil d'amateur, mais pas plongé comme on l'est dans le foot au quotidien. Donc moi, en fait, j'ai demandé à beaucoup de spécialistes autour de moi, que ce soit d'anciens joueurs, des supporters passionnés qui sont dedans tout le temps, des consultants. J'ai vraiment essayé d'aller au plus large.
Et, alors vous
et personne
quoi,
n'a la même analyse, en fait. Ouais. Personne n'a la même analyse parce qu'il y a autant de façons d'arbitrer que de matchs de rugby chaque week-end. Et je trouve que c'est tellement... quand on nous l'explique... C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment entendu... moi, j'avais la déception, évidemment, comme tout le monde. Tu perds un point, t'as les boules et tout. Et le lendemain, j'avais encore la rage, quoi. Et je suis tombé sur plein d'amateurs de rugby qui m'ont dit « Mais non, c'est ça, le rugby. Il faut l'accepter. Ça fait partie de ce jeu. Et » depuis... Et c'est ce que dit Fabien Galthié au début de son intervention, sauf que petit à petit, tu te retrouves à la fin où il te dit « Ouais, bah moi, j'ai discuté avec l'arbitre. En fait, il n'était pas bon. » Ah non. C'est pas possible, tu peux pas tenir ce discours.
Quand bien même Ben O'Keefe aurait dit ça, ce qu'il a dit visiblement, qu'il n'était pas satisfait de son match. Ça veut pas dire, il a pas dit je suis pas satisfait de mon match parce que j'ai défavorisé l'équipe de France.
Non, déjà qu'ils nous le disent, l'arbitre.
Ils nous disent qu'on a envie, il est malin, Galthié. Parce que Ben O'Keefe ne serait pas satisfait de son match, visiblement, c'est vrai, parce qu'il a fait des erreurs qui sont apparemment techniquement objectives. Pour les spécialistes dont tu parles. Et juste après le match, peu de temps après le match, sur le site de l'équipe, il y avait une analyse de toutes les décisions de l'arbitre. Et en fait, il a fait des erreurs qui sont équilibrées entre les deux camps.
Comme ça arrive souvent.
Et qui n'ont pas déséquilibré le match. Parce qu'il a fait des erreurs qui ont été défavorables à l'Afrique du Sud et des erreurs qui ont été défavorables à la France. Ouais. Donc, Galthié dit, je l'ai vu, il a dit qu'il n'avait pas fait un bon match. Mmh. Et donc, nous, on dit, ça veut dire qu'on s'est fait farcir.
Les petites aventures là, dans notre Rubik, c'est un Philippe Sansfourche qui va avoir plein de spécialistes, plein de passionnés, tout ça. Est-ce que vous, Hugo, vous êtes une famille de rugbymen, est-ce que chez la famille Bonneval, vous êtes tous d'accord? Est-ce que Ben O'Keefe...
Je crois qu'il a... Allez-y, je crois qu'il a entièrement raison. À chaque décision, tu mets trois arbitres différents avec la même action et les trois sifflent une chose différente. C'est ce qui fait la beauté ou non de ce sport, mais c'est ce qui fait aussi et c'est ce qui rend ce jeu problématique pour les phases finales de Coupe du Monde, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'arbitre a de plus en plus un impact trop important presque. Voilà, il devrait être au centre du jeu pour le fluidifier, pour permettre aux acteurs de s'exprimer pleinement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, de temps en temps, c'est l'arbitre qui devient le premier rôle. Voilà, et je pense que ça, c'est problématique. Alors après, O'Keefe, moi, ça me fait rire qu'ils disent qu'il a fait un mauvais match. Ça ne l'a pas empêché d'arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde la semaine d'après. Donc s'il avait été si nul que ça, pour l'un ou pour l'autre, pour l'une ou pour l'autre équipe, World Rugby l'aurait sorti. Voilà, donc c'est moi ce qui me dérange dans cette déclaration, c'est surtout le timing, en fait.
Okay.
Voilà, j'aurais aimé qu'on parle de la Coupe du Monde après la Coupe du Monde, quand on s'est fait sortir, et que tout le monde puisse s'exprimer et que voilà, à chaud, tout le monde raconte ce qu'il a ressenti. Mais là, on est en sortie du tournoi Destination et je pense qu'il y a largement assez de quoi parler de ce tournoi.
C'est drôle, dans votre dernière intervention, finalement, le débrief de la Coupe du Monde, n'a pas eu lieu. Le tournoi destination est arrivé. On a l'impression que finalement, on avait un débrief de retard, que les Bleus ont également été un peu plombés. C'est aussi peut-être une explication. À travers ça et à travers ce match, quand même, je reviens sur France-Afrique du Sud parce que j'ai appris des choses intéressantes qui concernent, on va dire, non pas ce match, mais l'ensemble des matchs internationaux. Vous allez me corriger si je dis une bêtise, hein, mon cher Hugo. J'ai appris qu'en amont du match, l'équipe de France et les Springboks également, les adversaires, avaient envoyé des questions avant la rencontre à Ben O'Keefe pour connaître la manière d'arbitrer sur certaines situations, sur certaines phases de jeu développées soit par les Français ou soit par les Sud-Africains. Est-ce que ça, vous me confirmez ça? Et contrairement au foot, on a l'impression que le jeu d'intox avec l'arbitrage commence bien avant la rencontre. Ça, c'est quelque chose d'assez passionnant et captivant, hein.
Oui, oui, mais ça se fait ouais, très souvent. Chaque semaine avant les matchs, tu t'envoies des petits clips vidéo aux arbitres en leur demandant, voilà, nous, on aimerait défendre comme ça sur certaines situations, on aimerait attaquer comme ça. Est-ce que vous autorisez ce genre de placement, etc., en attaque, en défense? Donc, on en revient toujours à la même chose, c'est l'interprétation de l'arbitre. Et même pour aller plus loin, il y a quelques années déjà de ça, la Nouvelle-Zélande avait énormément travaillé son body language avec les arbitres, et en particulier avec leur capitaine Richie Mako, où à chaque fois qu'il arrivait en face de l'arbitre de champ qui avait sifflé une pénalité contre lui, il arrivait avec les mains sur les genoux pour avoir son champ de vision inférieur à celui de l'arbitre. Et à chaque fois que l'arbitre avait sifflé une pénalité pour la Nouvelle-Zélande ou qu'il avait fait une erreur
en faveur
et qui endommageait la Nouvelle-Zélande, le capitaine arrivait le torse bombé avec son champ de vision supérieur à l'arbitre. Donc il y a énormément de choses qui sont mises en place et qui se travaillent au quotidien. Et je pense que les Anglo-Saxons, pour ça, sont quand même meilleurs que nous.
Ouais, franchement, un sport de détail. Hein. On est arrivé sur la « faut-il travailler l'essence de tir au but ?» Là, j'ai l'impression que le diable est dans les détails. Hugo, merci beaucoup.
Merci.
Autre chose à ajouter
merci
sur
à
ce
vous.
Débat ou pas? Non, pas frustré. Vous avez dit tout ce que vous avez envie de dire, mon cher Hugo.
Bon, tout va bien.
Tout va bien.
Okay. J'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée.
Ben, voilà. Oui, une bonne nuit. Merci, on vous embrasse, Hugo. C'est toujours passionnant de vous écouter.
Merci
parler
beaucoup.
Merci, Hugo. Ciao.
Est-ce que le champ de vision de Dominique Sévrac est inférieur ou supérieur à celui de Karine Galli dans la mesure où il a perdu ses deux premiers duels?
On retourne te cumuler. Je veux dire, au fond du bateau, le féminin, ça va être aussi fragile.
Pardon, Karine?
Peut-être que les Néo-Zélandais pourront t'aiguiller et t'aider.
Oui, mais Karine, merci, Karine.
La Coupe de France de handball. Paris vient de se qualifier ce soir pour la finale en disposant de son éternel rival, Montpellier.
Match serré de bout en bout quand même. Les Parisiens en blanc, le MHP en bleu. Vous allez voir, ça s'est rendu coup pour coup jusqu'aux deux dernières minutes de jeu où les joueurs de la capitale ont pris le large pour l'emporter 35-32. Ils joueront le titre face au vainqueur de l'autre demi-finale entre Toulouse et Nantes. Réaction de Luc Steins au coup de sifflet final.
Bah, je pense qu'on est resté calme. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont manqué ce soir chez nous. Mais franchement, tous les joueurs qui sont rentrés sur le terrain, ils ont fait un super boulot. On a essayé de rester calme, on a joué 7 contre 6 un peu, on a fait beaucoup de croisés, on a toujours resté calme en ballon, en attaque. Après, en défense, on était bien, on a tout donné. On leur a raté au moment important et les gardiens, ils ont fait un super boulot. Donc tout ça ensemble, je pense que c'est une super victoire d'équipe ce soir. On joue encore pour 3 titres cette saison, donc c'est super bien. Il faut garder cet esprit-là qu'on a montré aujourd'hui pour les prochains matchs et on verra qu'est-ce qu'on peut faire.
Propos recueillis par Victor Coudreau qu'on salue. Monaco s'incline en Euroleague face à l'Olympia à Milan. Qu'est-ce que j'apprends?
Fin de série pour les champions de France qui restaient sur 8 succès d'affilée dans la compétition. La Roca Team a été plombée par sa première mi-temps. Elle a tenu le coup grâce à Jordan Lloyd qui a inscrit les 10 premiers points de l'équipe. Le bon passage de Mike James n'a pas suffi. La défense n'était pas au rendez-vous. Bref, défaite 80-98. Petite humiliation quand même. Prochain match contre Valence à domicile, ce sera ce vendredi.
On n'arrête plus Tadej Pogacar sur le Tour de Catalogne.
Les journées se suivent et se ressemblent. Le Slovène assomme le général en remportant l'étape du jour après s'être adjugé celle d'hier. Il n'a eu besoin que d'une attaque pour décrocher ses derniers rivaux et passer la ligne en solitaire. Il a enlevé de sa roue Mikel Landa, le dernier à le suivre, et Antonio Tiberi. Lenny Martinez est quatrième du classement général ce soir.
J'ai oublié le tennis, c'est une bonne nouvelle parce que ça passe pour Lucas Van Hachem à Miami.
Il a surclassé le russe Pavel Kotov en 2 manches solides, sa première victoire en Masters 1000, de quoi rebooster la confiance du français de 25 ans. Il n'avait plus remporté un match dans un tableau final depuis son passage en Coupe Davis en février dernier. C'est du costaud par contre qu'il attend au deuxième tour. Il défiera le Norvégien Casper Ruud
au prochain tour. Et voilà. Et du classique, de l'argent, du pognon, des gros salaires. Oui, c'est l'une de l'équipe.
Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vais vous donner quand même le top 5 des joueurs les mieux payés. Mmh. Sans surprise, c'est un top 5 parisien. Hein. Ouais. On a Mbappé en 1 à 6 millions d'euros bruts par mois. Dembélé, Marquinhos sont deuxième ex aequo. Lucas Hernandez en 4 et Skriniar en 5. Tous gagnent un petit peu plus d'un million. Le reste, c'est à lire dans le journal Demain. Je rajoute juste que les joueurs les mieux payés en dehors du PSG, c'est Pierre-Emerick Aubameyang à égalité avec Ben Yedder, mais je n'en dis pas plus.
Ah, ok, bah, déjà trop dit. Non, bah, on va notre quotidien préféré demain. Merci Virginie. Benzema diminue au JO, c'était l'information choc hier dans l'équipe du soir. Karim Benzema ouvre la porte à une participation au JO de Paris. Les JO, nous dit-il, ou dit-il à Virginie, pourquoi pas? Bien sûr, ça pourrait être top surprise, car Benzema est donc prêt à sortir de sa retraite internationale pour disputer les JO de Paris. La dernière image, on va la remarquer, c'était une image filmée au portable par Loïc Tanzi. On était à quelques jours du début de match de la Coupe du Monde des Bleus. Un départ en catimini de Karim Benzema, sans dire au revoir à quiconque au Mondial du Qatar. Puis une communication floue, on a bien compris qu'il n'était pas d'accord Karim avec Didier Deschamps. Quand Dixit, le sélectionneur, il déclarait que Karim Benzema était parti de son propre chef. Quelle audace, sacré Didier, vous savez, avec l'émoticône clown. Voilà. Son passif avec Didier Deschamps rend-il son retour en équipe de France olympique un peu improbable? À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, mes amis. J'ai le camp des... Tiens, mais qui est avec Dominique? Ah, tiens, bah d'accord. J'ai le camp des vous. Galice en fourche. Karine, vous commencez, c'est ça?
Bien sûr. Ouais.
Karine, vous faites à peu près 30 secondes. Philo, vous lui mettez un coup d'épaule quand elle arrête parce qu'elle est gourmande, hein, Karine. Hein. C'est pas, elle peut filer à 40, 50. Voilà. Si, voilà.
Oh, non, parce je vous ferai derrière aussi. Hein, bon,
d'accord, ok. Et, ah, mais Dominique, là, c'est une surprise parce que vous faites tandem avec Timothée Mémon. C'est la première fois que vous faites un super duel avec Tim Tim.
C'est vrai.
Comment on fait?
En fait, c'est assez simple parce que j'ai pris celui qui gagne ce soir.
Ouais.
Donc, on va commencer par le talent de Timothée. On finira par un peu d'expertise, mais si ça vous dérange pas.
Moi, ce qui me dérange, Timothée, c'est que vous êtes à côté de celui qui perd.
On va voir. On va voir quel est l'élément fort ou l'élément faible.
D'accord. Son passif avec Deschamps rend-il son retour improbable? J'ai un oui, c'est Karine Galli. Karine, à vous de jouer.
Je vais aller plus loin, c'est pas improbable, c'est impossible. Et je suis surprise quand même que Dominique, qui connaît Didier Deschamps comme sa poche, soit oh oui, peut-être que Benzema va faire les JO. Ben non, évidemment, vous l'avez rappelé, l'histoire s'est une nouvelle fois mal terminée entre Benzema et Deschamps. Il devait nous expliquer ce qui s'était passé. Benzema, il l'a jamais fait. Donc vous croyez vraiment que Thierry Henry va prendre Benzema alors que ça embêterait grandement Didier Deschamps? Il n'y a aucune chance.
Ok. Timothée, c'est non.
Bah, je trouve ce constat, le constat de Karine intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il y a une ingérence de la part de Didier Deschamps dans ce que fait Thierry Henry. Pour moi, c'est deux sélectionneurs différents, deux sélections différentes. Que Didier Deschamps puisse avoir son mot à dire potentiellement sur des joueurs qui feraient les deux compétitions, pourquoi pas, un avis éclairé, mais qui vienne dire son mot sur un joueur qu'il ne prendra pas à l'Euro, enfin jusqu'à preuve du contraire, Thierry Henry fait ce qu'il veut, ou alors on dit Didier Deschamps est le leader maximo de la fédération, il décide de tout.
Philippe Sanfour, c'est oui, pourquoi?
Oui, alors c'est un peu plus subtil que ça, mais je vais complètement dans le sens de Karine, et l'exemple fourni il y a quelques jours est frappant, puisque Thierry Henry s'est mis dans les pas de Didier Deschamps sans aucune contestation, mais ça va au-delà des sélections. Ça va sur finalement sur l'image de la Fédé, vous n'aurez pas échappé, on l'a dit tout à l'heure, les JO c'est de l'image, c'est pour ça qu'on a pris Thierry Henry, c'est pour ça qu'on a pris Hervé Renard. La ministre, l'État voulait Kylian Mbappé et ils vont avoir Karim Benzema, un des personnages les plus clivants du sport français. Ça colle pas avec les JO, ça colle pas avec l'image.
Ok. Dominique, avez-vous à répondre?
Bah, ça colle tellement pas avec les JO que ce soir Philippe Gallo au Figaro et dans d'autres médias, il a dit qu'il a tendu la main à l'arrivée de Karim Benzema. Donc là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait. Il y a une hystérie en France qui empêche Karim Benzema de revenir en France. Donc on ne voit plus qu'il est ballon d'or, on ne voit plus qu'il a été un grand joueur, on ne voit plus tout ça. Et donc en fait, parce qu'il y a eu un conflit à un moment donné avec Didier Deschamps, bah, c'est terminé. Bah, je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Ce n'est pas Didier Deschamps qui décide de tout. Et donc là, c'est les Jeux Olympiques, c'est Thierry Henry. C'est, comme tu l'as dit, c'est politique. Et le retour de Karim Benzema en sélection,
il n'y a pas eu un conflit, mais des conflits. Et tu croyais que Philippe Diallo allait mettre le feu dans le Figaro en disant évidemment, on ne verra plus jamais Benzema avec le maillot des Bleus. Mais enfin, t'es le perdre de l'année ce soir, c'est pas possible. Évidemment qu'il répond ça.
Aïe, 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 aïe. Il connaît déjà les réponses de Philippe Diallo.
En tout cas, c'est grave.
Non, elle décode la réponse de Philippe Diallo, ce qu'il aurait pu dire et ce qu'il n'aurait pas évidemment pu dire.
Il aurait pu faire un refus poli.
Mais petit.
Dominique, ton temps de parole est passé, je crois que tu en as assez dit.
Son passif avec des champs ont-ils son retour improbable. Le camp des non est sur votre droite, présidente. Le camp des oui est sur votre gauche.
Merci.
À vous de jouer.
La loose de Dominique a contaminé son partenaire, malheureusement pour toi, Timothée. Je crois que ton champ de vision, Karine, est très au-dessus de celui de Dominique. Tu as travaillé ton body language.
N'est-ce pas?
Ton stage en Nouvelle-Zélande t'a fait beaucoup de bien.
Ça m'a fait du bien.
Donc, Dominique...
Là, vous voyez un chaos.
Ouais, un chaos parce que rien n'est impossible. C'est vrai qu'au départ, la question était est-ce que c'est impossible? On va être prudent.
Improbable.
Mais très improbable, effectivement. Et c'est même pas une question d'ingérence. C'est une question de, même si on n'aime pas tous ce mot, mais d'institution. C'est-à-dire que tu as un joueur qui critique ton sélectionneur. Et ça, c'est l'image de la fédération qui est en jeu. Ça veut dire que tu lui, t'es obligé un peu de lui fermer la porte. On n'est pas chez les bisounours. Si je critique le directeur de la rédaction du Parisien, ils vont pas m'embaucher au foot au Parisien. Parce que ça tu vois, j'envoie mon CV demain. Mais c'est une question d'image. Il y a eu en plus un passif long avec Benzema. C'est juste pas juste cette histoire de Doha. Mmh. Ça remonte à plus tard. Et là, ça recommence en fait au premier problème, c'est reparti. Il attaque Deschamps. Je vois pas trop l'intérêt, alors que l'image va être extrêmement importante aux Jeux Olympiques de l'appeler, pas sportivement. Même si j'ai pas vu ses matchs en club récemment. Mais on est tous d'accord que c'est un joueur fantastique, qu'il a eu un ballon d'or, etc. Mais penser que la Fédé va s'acheter un problème en le prenant avec ce qui s'est passé encore récemment, je trouverais ça assez inquiétant pour l'institution et pour l'image de la Fédé.
Le retour éventuel de Karim Benzema avec l'équipe de France Olympique pour les JO. Karim est candidat. On va avoir quelques réactions, celle de Philippe Diallo, de Thierry Henry et Didier Deschamps. Ça sera juste après la pause.
C'est des inventions, ils ont inventé leur réponse.
Le retour de Karim Benzema donc en équipe de France. Pour l'instant, évidemment, c'est une envie du joueur, une confidence liée à Virginie Saint-Cilly, une information qui a mis le feu à la toile hier. Son passif avec Deschamps rend-il son retour improbable? Galli Sanforge disent oui, Sévrac Mémon disent non. On a eu l'explication du super duel, arbitrage de la présidente en faveur du clan des oui. Je vous ai dit juste avant la pub qu'on avait deux, trois réactions. Alors, on est lundi, en conférence de presse, c'est traditionnel. On est lundi en conférence de presse.
Il y a un flashback. Si tu fermes les yeux, t'es lundi.
C'est le passé, voilà. C'est le récit.
Didier Deschamps est interrogé par notre confrère Baptiste Després du Figaro. Écoutez la question et la réponse et regardez bien l'attitude.
Est-ce que symboliquement parlant, par exemple, des Lloris, Varane ou Benzema, tu trouvais ça beau de les voir au JO avec l'équipe de France?
Oui, moi je sais pas. Si, ils en ont envie et deux, que Thierry estime qu'il a besoin d'eux, pourquoi pas? Après ça, il faut demander à Thierry. Moi, que ça me plaise ou ça ne pas me plaire ou me déplaire, je vous le répète encore une fois, l'objectif commun, c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure équipe.
Donc son passif avec Deschamps aura-t-il son retour improbable? Pour l'instant, il n'y a pas de loup. Ah, avantage Dominique Sévrac et Thibaut Aimé.
Bien sûr.
Mais depuis mardi dernier, on sort l'info. Enfin, Virginie, vous avez l'info. Benzema, candidat, voilà. On revient aujourd'hui, on rencontre Philippe Diallo et on rencontre Thierry Henry et on leur demande de commenter finalement la candidature spontanée de Karim Benzema. Regardez dans l'attitude aussi, c'est une petite gêne.
Karim Benzema d'abord c'est un grand joueur du foot français et du foot mondial. Ballon d'or. Donc moi je me réjouis d'abord qu'il ait envie de jouer participer aux Jeux Olympiques, qu'il a envie d'être dans cette équipe. Après, moi, je ne suis pas le sélectionneur. C'est la responsabilité de Thierry de faire sa liste.
Impossible. Impossible de vous donner des noms, là. C'est juste impossible.
On sent que ça se raidit un peu, non? On sent que les formules sont convenues, choses comme ça. On sent que le cas Benzema, c'est pas Varane, c'est pas Lloris, c'est pas Griezmann, c'est pas Mbappé, mais c'est tendu avec les clubs.
C'est un sujet hystérique depuis 10 ans quand même, en France.
Oui, mais Thierry Henry connaît la valeur du footballeur, Benzema.
Philippe qui a dit clivant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, il y a cette. Moi, j'ai jamais compris pourquoi aussi, parce que si, il y a plusieurs choses que je. Mais je vois bien que c'est un personnage qui hystérise la société française, quoi. Mmh. Et pas que le foot.
Ah oui, il s'hystérise, oui.
Ah oui, si, je pense que effectivement.
Des premiers ministres. Là aujourd'hui, c'est toujours.
J'ai entendu
un sujet
des premiers ministres, Karine Galli.
Non, mais là aujourd'hui.
Malheureusement, Karine, ça.
On l'a entendu, mais
cas.
là aujourd'hui, on est le donc 21 mars. C'est encore.
C'est printemps,
c'est
toujours, je pense.
C'est un sujet qui aujourd'hui hystérise vraiment les Français.
Une partie. Non, mais c'est d'accord. La température a un peu retombé, la fièvre, comme on dit, sur certaines chaînes. Une très bonne série.
C'était un très bon acteur d'ailleurs.
Merci, c'est très gentil. Mais c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais je pense que si tu annonces que c'est officiel, il est pris, il vient, il joue les JO, il fait les JO. Là, je pense que c'est reparti. Hein. Assemblée nationale, Premier ministre, tout le monde est interrogé, ministre des Sports.
Ah bah, ça, il y aura des questions.
La sélection pour les JO, donc, n'est pas que sportif.
Bah non.
C'est ton image aussi.
Ouais, non, mais c'est, non, mais c'est...
Bah, c'est au cœur de l'actualité. Je veux dire, on en fait des kilo-caisses aussi sur les critères de désignation du porte-drapeau, à savoir de est-ce que s'il y a eu il y a 12 ans une condamnation pour un truc qui pourrait...
Un porte-drapeau, là. Là, un porte-drapeau, c'est celui qui a...
Oui, mais là, ça hystériserait la société olympique. Française.
On est d'accord, mais
vous me dites
par extension, c'est un débat qui vient s'infiltrer. Dans chaque événement qui va porter autour des... Et plus on va se rapprocher des Jeux, et plus cette symbolique... Après, on peut estimer que c'est trop, qu'est-ce que l'esprit olympique, finalement, mais il va y avoir des raccourcis, oui. L'association de Karim Benzema, de son image, encore une fois, à tort ou à raison, parce qu'elle a été construite avec avec des faits et aussi avec des fantasmes. Donc l'image de Karim Benzema, on peut en discuter des heures. Mais c'est un fait. Elle hystérise une partie de la société française. Et donc, dans ce climat, dans cette dernière ligne droite où on met tout en œuvre pour essayer justement de rendre la fête aussi belle qu'elle puisse être, c'est un risque politique aujourd'hui.
Donnons quand même l'un des derniers mots donc, à la Fédération française. Le nom de Karim Benzema a été couché dans une liste de 100 noms. C'est ce qu'on nous a dit du côté de la Fédération. Donc Karim Benzema est dans les 100 noms des joueurs de plus de 23 ans à pouvoir
je
être...
Ça aurait été bête de ne pas y penser. Quand même.
Voilà. Hier, sondage du soir. Benzema au JO, ça vous plairait? On se refait sur l'actualité donc, et l'information sortie par Virginie. La réponse est non, hein. À 80%.
Bah parce que
ça veut dire. Ah oui, oui, oui.
Bah donc, Karine, on est encore un petit peu dans le haut de l'hystérie.
C'est, en fait, les gens, je crois que surtout, ils en ont marre qu'on parle du foot au JO. C'est même pas Benzema. Il y a. Boucle la boucle.
On a fait une émission là-dessus. Donc,
Parlez-nous qu'on va pas avoir de médaille en athlétisme, peut-être. C'est quand même plus important, non?
Une médaille en foot, c'est ça le plus important.
Bah non,
pardon, c'est quoi? C'est la France est passée à autre chose? Ou la France en a marre de Benzema? Ou la France déteste Benzema? Comment faut comprendre ça? La France, en plus, c'est les gens de l'équipe du soir.
Ils n'ont pas compris son forfait. Son forfait n'a jamais été vraiment expliqué au mondial.
Il devait nous l'expliquer d'ailleurs.
Il est possible que le français en général en ait un peu assez du battage médiatique qu'il y a autour de Benzema depuis des dizaines d'années. Et ce qui explique peut-être la réponse au sondage d'hier, c'est qu'il y a peut-être un peu un ras-le-bol, d'autant qu'on, comme le disait Mélissande, on ne sait pas véritablement quel est son niveau aujourd'hui après une année passée en Arabie Saoudite. Quoi.
Ça s'appelle un grand chelem de Dominique. Hein. Ça s'appelle un grand chelem.
T'as quand même fait 22%.
Attention, moi je viens pas pour gagner, je viens pour défendre mes idées.
Ah d'accord, ok.
Mais c'est très couvertin dans l'esprit.
Je sais que certains viennent ici pour gagner des duels.
Ouais, ok.
Mais les bleus, ils viennent pour gagner ou pas?
J'espère.
Virginie, demain la une de l'équipe. Alors, on va parler pognon, gros sous, pépette.
Alors attendez, parce que tout à l'heure, je devais faire une imitation, mais j'ai oublié. Oui. C'est produit avec Émile Gillet, donc roulement de tambour.
Oh là, je crains le pire.
Les salaires, ils vont changer. Voilà. Mais c'est super bien fait. Les salaires, ils vont changer.
Merci beaucoup, Virginie.
D'accord, super.
Je sais pas.
C'est Émile Gillet.
C'est Émile Gillet qui ouais, voilà. Bon, il est allé chez le coiffeur, il l'envoie au mur, c'est la semaine de
tout. Du reste des.
Et Dominique, vous n'avez pas les. Non, vous n'avez pas les jokers. Non, vous n'avez pas les jokers.
Ça m'empêchera pas de gagner.
C'est la petite Karine qui a le joker.
Moins 7, en vrai.
Pardon.
Alors attention, Karine. Le thème du soir, les stars du foot qui sont devenus donc champions olympiques.
Oh, c'est fatigant.
Ouais,
vraiment.
On a la marre du foot au JO.
Mais je laisse gagner Dominique.
C'est nul le foot au JO.
Moi, je laisse gagner aussi. Ça ne m'intéresse pas. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas.
Pourtant, tu en connais certains.
Attention, les stars du foot qui sont devenus champions olympiques. Comme l'espèrent les Bleus, j'ai remporté les JO dans mon pays.
Neymar.
Neymar. C'est probable, mais ce n'est pas la réponse attendue car je suis espagnol pour 3 points.
Ah. 92. Ouais. Mmh. Je prends un espagnol.
Joueur, j'étais milieu de terrain pour 2 points. Elle a deviné, Mélisande.
Ben oui.
Je suis surtout un entraîneur de génie.
Ben oui.
Guardiola.
1 point pour Dominique Sebrac qui ouvre le score.
Je vais gagner. Hein.
Ah ben oui, oui, là on te l'a.
Attention. Je suis attaquant. Je suis français. 3 points. Avec 5 réalisations, je suis le meilleur buteur de l'édition 84.
Avec Zureb.
Daniel Zureb, c'est une excellente réponse.
Voilà. Il était sur la photo.
Voilà.
J'ai pas vu la photo.
Attention, je suis argentin après.
Messi.
Messi, mais non. Merci. Mais j'ai joué au Barça pour 3 points.
Ah ouais, non.
Vous pouvez revenir, Karine.
Oui, c'est Mascherano.
Mascherano, c'est pas la bonne réponse, car je suis un numéro 10 de légende. Pas Messi qui est argentin, un numéro 10 de légende.
Riquelme.
Maradona.
Riquelme. Riquelme. Non, Maradona, il me semble, n'a pas disputé les JO. Mondialito, mais pas les JO.
Karine, t'as le droit de jeu quand même.
Karine peut rejouer. Karine
va gagner tous les duels. Et
Dominique, franchement, t'as tellement perdu ce soir que ça nous fait plaisir de devoir gagner quelque chose.
Attention. C'est un indice, c'est je suis formé au Real Madrid. C'est un indice, mais... Pourtant, ma sélection bat l'Espagne en finale des JO 2000.
Des JO combien ?
2000.
Sydney. Non, mais c'est pour dire les JO.
Oui, pas Sydney Govo, oui. À Lanzi Makashkala, j'étais le joueur le mieux payé de l'histoire.
Eto, je l'ai dit avant.
Oh non.
Timothée.
Oh non.
Ah si.
Si, c'est Timothée.
Bon, de toute façon, vous ne voulez pas jouer pour une fille qui ne veut pas jouer.
Laissez-lui.
Le naturel revient au galop. Carinette, allez, on y va. J'ai joué en Ligue 1 de 98 à 2002.
Taribo West.
Taribo West, c'est dommage, c'est pas ça.
Ah, il va bien arriver un moment.
Ben, je suis. C'est le bon pays parce que je suis meneur de jeu. 98.
Okocha.
Okocha. Eh oui, 3 points pour la famille. Champion olympique en 96, je suis nigérian, JJ Okocha. Tiens, je suis français.
Hein? Oui.
Je suis coaché par Henri Michel en 84. Ok.
Oui.
Ouais. Ouais. Attaquant, je suis passé par Nantes, Bordeaux et Monaco.
José Touré.
José Touré, 2 points supplémentaires pour madame la présidente Gomez. Je regarde le nombre de. Nous sommes à. 4 champions de l'arrivée, 4 champions olympiques des stars.
Bravo, Mélisande.
J'ai marqué le tir au but du titre en 2016.
Neymar.
Neymar, 4 points.
Ah,
pour Dominique Sebrac qui s'envole.
Allez, là.
On peut donner un RTT à Dominique si vous voulez. Non, je ne sais pas si le joker va
être activé.
Non, on le conserve.
Vous voulez que je le.
Tu l'as tellement en même temps, tu l'as tellement laminé ce soir.
Je grise, non. Je ne suis pas très intéressé par le débat, donc je ne sais pas. Tu veux être grisé ou pas ?
C'est un coup.
Non, on reste.
Te voir en pleine lumière.
Non, reste. Reste avec nous.
Je suis titré à Pékin en 2008.
Messi.
Messi, 4 points supplémentaires.
Oh, il empêche les autres de jouer, grise-le. Bah oui.
Nous sommes
bon, je te grise.
Allez.
Le peuple a parlé.
Voilà.
Je te grise.
Allez. RTT,
tu gagneras
pour,
quand même.
Dominique, on est à 2 champions de l'arrivée.
Oui, t'as 13 points de toute façon.
Je suis espagnol.
C'est bien.
J'ai joué au Real et au Barça.
Bah oui.
Ça vient pas. Après ma carrière, je suis devenu entraîneur.
Luis Enrique,
2 points supplémentaires pour Mélisande Gomez.
Pas bon.
Allez.
Le dernier.
Dernière pour la route. Dominique, vous êtes réactivé.
Bonsoir.
Dominique, là, c'est les mains
en ligne. Je m'intéresse au fait JO, quoi. Je l'ai prouvé toute la soirée.
Comment on vit cette victoire? Parce que là, rien ne peut changer.
Non, mais je préférerais gagner sur la dernière quand même.
Ah ouais? D'accord. Ok. Quand je joue les JO, je suis sous contrat avec le Paris Saint-Germain.
Marquinhos,
4 points.
Et voilà.
En 4 points.
J'attendais Marquinhos et Taribo West, moi. Donc.
Voilà, Taribo West. Oui, Taribo West.
Ouais, mais c'était déjà au coach.
Ouais. Mais Taribo West a été aussi champion d'Afrique.
Ça t'intéresse pas,
Non, ça m'intéressait pas beaucoup.
Non, pas beaucoup. Ah, écoutez, voilà.
Virginie, la moto, elle a pété.
Un petit coup d'œil de promo pour nos copains du journal, la une de l'équipe qui va faire une nouvelle fois l'événement.
Oui, j'ai continué à travailler mon imitation.
Non, c'est bien comme ça, Virginie, vous êtes.
Les salaires, ils vont changer.
Oui, d'accord.
C'était mieux là, non? Non, oh, vous me fatiguez. Bon, tous les salaires des joueurs de Ligue 1 à retrouver dans l'équipe demain.
Bah voilà.
Merci à tous.
Bah, oui.
On vous adore.
Voilà, et bisous à la Guadeloupe, c'est ça
hein? À la Guadeloupe, à la Martinique, à toutes les Antilles.
À la Seine-Maritime aussi, bien sûr.
Voilà, Seine-Maritime.
Et à la Loire.
Et à la Loire aussi.
La Bourgogne.
Philo, non.
Le Lot et la Corrèze.
Le Lot et la Corrèze. Karine.
Le Var va bien, ils n'ont pas besoin.
Le Var va bien.
Paris 11e, si
aussi. Paris 11e aussi. Bon, j'embrasse l'Anjou.
Hein, c'est très ciblé.
Ouais, l'Anjou rouge, l'Anjou blanc, l'Anjou rosé. Voilà. On vous embrasse avec modération. On vous embrasse. Et à demain.